Bonjour les amis. Ok, le mec va faire gagner des tickets pour des tours de manège. C'est parti les petits amis. Allez, on attrape. Putain, je suis très en forme moi. Ah oui, j'ai pas dormi. Ah, c'est pour ça. En général, je veux dire des bêtises. On attrape la queue du Mickey. Je rappelle, une queue de Mickey attrapée et un tour gratuit. Waouh. Waouh, je suis en pleine forme. Méfiez-vous, ça sent pas bon. Vous allez bien? Le ASMR du café là, incroyable. Merci Louis Axel pour ton troisième mois. Merci Alunera pour ton deuxième mois. Merci Lewis pour ton message que j'ai lu qui m'a fait plaisir. Merci pour ton 14e mois. Non, ton 37e mois. Poi, poi, poi. Merci Nyandra pour ton 26e mois. Le message de Piwi. Le message de Piwi. Je me suis mise en télétravail pour vivre ce stream en toute tranquillité. Pop, 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 pop. Incroyable. Bonjour Samuel et désolé pour ce que tu te prends sur les raisons en ce moment. Courage. Mais. Alors déjà, soyons précis, parce que c'est une. Merci, Biokai, c'est une chaîne d'information. Enfin, chaîne d'information, c'est une chaîne où on parle d'actu entre nous, quoi. Vite fait. Et donc, on essaye de mettre un peu de rigueur dans tout ça. Les réseaux. Un réseau. Le réseau du chétan. X. Comme vous le savez, ça n'est pas, ce réseau n'est pas la vraie vie, quoi. Donc, comme vous le voyez, et c'est pas un rôle de composition, je relativise beaucoup tout ça. Limite, ça m'amuse un petit peu.
Eh oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent.
Hein? Quoi? Qui? Bonjour Samuel, je travaille à l'hôpital et quand des patients regardent Question pour un champion sur la télé les week-ends, c'est toujours un bon moment de t'avoir en fond pendant la distribution des médicaments. Dommage qu'on soit passé au week-end seulement. Merci Gilles-Joël. Gilles-Joël, merci. Tu me donnes trop envie de boire du café. Mais je suis une pub vivante pour le café. Ah, ça commence la F1? AMG? MotoGP aussi, j'ai vu. Ah, je crois que j'ai les pilotes français, là, Quartararo et Zarco, ont pas des super bécanes, là, j'ai vu ça, ouais. Je vous lis, c'est mon petit plaisir. On est tous désolés et tristes pour toi, mais vraiment ne le soyez pas. Hein. Franchement, vous savez, sur Twitch, tu peux pas trop. C'est ce que j'explique souvent, et c'est ça qui est intéressant sur cette plateforme. Tu peux pas vraiment tricher. C'est-à-dire que quand tu es en live des heures par jour, tu peux pas tellement être dans la composition, quoi. Et je pense que vous voyez que je ne suis pas très atteint par tout ça, quoi. Donc vous inquiétez pas du tout. Tu as tout en YouTube, en J plus 1, mon Louis. Tu as tous les replays gratuitement sur YouTube. Ouais. On va parler de guerre, on va parler de guerre, ouais. Tiens, je vous mets un petit sommaire. On va parler de ça. Hier soir et ce matin, ça a lu les journaux. Je vous ai mis ça de côté. Comme ça, vous savez déjà. Georges Clooney, c'est toi en fait. Je te vois. Non. Rapport au café? Ouais, non, pas fou. Tu n'as jamais été contacté par Georges Clooney pour Nespresso? Non. Ouf, vous vous rendez compte? Jamais une marque de café ne m'a approché pour me proposer un sponsoring. Alors je suis une pub vivante pour le café. Jamais compris ça. Pépin Camille, j'ai pas envie de bosser. Ça va bosser, oui, Camille, oui. Pépin Camille, j'ai pas envie de bosser. Ça va bosser, oui? Alors. Attends, mais t'étais pas censé te reposer ce matin, chef? Ah bah non. Ah bah non, jamais, l'actu n'attend pas. Ah bah non. Ah bah non, l'actu n'attend pas. Merci les Lemurien Obèses pour le 18e mois. Par le 46e mois, pardon. Merci Technopop pour le 16e mois. Oh, Anne, tu vois, bah, je tombais. Oh, pour, ouais. Anne, désolé. Désolé, Anne, KS17%. On voit que t'es solide, ça m'émue, mais on t'envoie du love quand même. Non mais tout va bien Camille, hein, vous inquiétez pas pour moi. Va falloir te calmer Sam, je vais avoir besoin de 3 jours pour mater tous les replays du week-end. Hey! Ça stream en ce moment, hein? Ça stream en ce moment, hein? Hein? En même temps, il y a de l'actu, hein? Voilà. Et vous êtes très nombreux en plus, ça fait plaisir. pourquoi cette nuit blanche? Non, pas une nuit blanche. Je me suis couché vers 2h, je me suis levé à 6h. Bien dormi là. Une grosse grasse mat même. Mirzella, coucou, tu as vu la réponse d'Alloncle à ton tweet? Oui, enfin surtout j'ai répondu à la réponse d'Alloncle. On est en mode maternel tous les deux. Hein. Franchement, c'est pas fou. Hein. Ah ouais, non, j'ai répondu à sa réponse. Oh là, il va peut-être répondre à la réponse. Attends, je suis perdu. Il va peut-être répondre à la réponse. Ah, je suis perdu, il y a trop. Il va peut-être répondre à la réponse. Il va peut-être répondre à ma réponse, à sa réponse de mon tweet. Vite, vite fait, je pense que c'est ça. Et on est vraiment au niveau maternel tous les deux. Je m'inclus, hein. Je vous lis, c'est mon plaisir. Merci Mélanie Nouveau Média pour ce 20e mois. Oh, c'est trop mignon. Ici, c'est sous grosse chicorée, telle une mamie de 25 ans. À un moment, j'ai voulu me remettre à la chicorée, moi, mais j'avais des grands-parents qui buvaient ça, moi. Et en fait, je trouve ça assez hype, en fait, la chicorée. Je trouve. En fait, j'aimerais bien être le visage de la chicorée, moi. Salut, comment je prononce? Death? Despot? Despot? Oh, Despot peut-être. J'ai mangé une pizza à la chicorée, plus jamais.
Quoi?
J'ai mangé une pizza à la chicorée, plus jamais. Il y a une marque qui fait chicorée plus café, c'est trop bon. La chicorée pure, c'est dur. Ma grand-mère en buvait, l'odeur me rend nostalgique. Merci Kev la Carotte pour l'abonnement offert à la commu. Merci Poum pour le 53e mois. Ça fait un paquet, hein. Ok, je me dépêche, Alexandra. Ma grand-mère en mettait dans le café. Ça me rappelle les petits déjeux chez mes grands-parents. Ben oui. Moi, c'était du côté de la maman de mon papa. Ma grand-mère paternelle, Suzanne, qui avait une toute petite exploitation agricole, toute petite ferme, minuscule, dans les on disait les côtes du Nord à l'époque, les côtes d'Armor. Elle buvait du chicorée, je crois. La chicorée, je crois. Je vous lis, hein, je vous lis. Hein. Il y a trop de messages, pardon, mais c'est mon plaisir, moi. Merci Solbur pour le 49e mois. Merci Néphérim pour le 53e mois. Incroyable. Vous êtes trop nombreux ce matin, par contre, là. Je n'arrive pas à suivre. Si jamais ça, mais il y a une petite coquille dans ton tweet, si tu dis ni. Ah, si initié, ni souhaité. Ah oui, j'ai une coquille, ouais. Ah bah je peux plus le corriger maintenant. Tu peux le corriger pendant quelques heures, c'est tout. On s'en fout. De toute façon, je vais remettre mon compte en privé. Hein, je l'ai mis en privé il y a quelques semaines parce que c'est résolument un réseau social qui est devenu un peu étrange, avec une surreprésentation de certaines opinions. Bizarre cet algorithme. Et donc, je l'avais passé en privé. Ma vie avait été transformée d'ailleurs. C'était beaucoup plus de lumière. Et je l'ai remis en public le temps de trois tweets. Donc là, on va le repasser en privé comme il était avant. Hein. Bizarre.
Mais non! Mais hasard de dingue!
X n'est pas étrange, c'est une poubelle, me dit Togo Kitoka. Les MP doivent être bien fleuris en ce moment. Pas tant en fait. En fait, les gens qu'on. Les gens un peu énervés là sur ce réseau-là, le truc, c'est vraiment de prendre le monde à témoin, quoi. Je reçois. Donc, on parle de centaines de milliers de messages, enfin de posts, mais je reçois aucun DM, personne, aucune de ces personnes ne m'écrit directement, quoi. Tu vois, c'est. Toi? Non, j'ai pas de MP en fait. Parce que le MP, déjà, on est plus dans la vraie vie, en fait. Déjà. C'est une personne qui parle à une personne. Et c'est pas du tout ce qu'essayent de faire les gens qui sont à l'origine de ces tweets. Hein. C'est intéressant, d'ailleurs. C'est vrai que je reçois littéralement quasiment aucun MP sur le sujet. D'autant que mes MP sont ouverts, moi. Bon, on va pas parler de ça ce matin, de toute façon. Enfin, si, à la fin, on va en reparler un petit peu, parce que j'ai un article dans Libération qui nous parle de monsieur le rapporteur, mais sur une autre histoire. Bon, quand ça va vous assez parler de ça? Tu te fais invectiver à quel sujet? Oh, c'est rien, c'est l'histoire de mon passage devant la commission de l'Assemblée sur l'audiovisuel public. Tu as, si ça t'amuse, tu as un réact à regarder de 6 heures de mon passage. Mon passage a duré 3h30. J'en ai fait un réact de 6 heures pour une exclamation commission. Et après, j'ai fait un live de debunk par rapport à toutes les fausses informations qui circulaient, qui avaient été postées par certains, pas beaucoup d'ailleurs, 4-5 comptes sur Internet. Et j'en ai refait un live de 3 heures, je crois, 2h30, 3 heures, point d'exclamation debunk. Si tu as du temps à perdre. Ça va, mais sur le qui-vive face à l'Iran, ça va, mais un peu inquiet avec l'Iran. Ouais, on va en parler beaucoup ce matin. Hein. Regardez, je vous ai mis un gros dossier là, en 3 points. On va beaucoup en parler ce matin, mais pas seulement. Hein. On va parler des municipales, on va parler de la doctrine nucléaire de la France, qui il y a un discours du président de la République là-dessus aujourd'hui. On va parler des municipales à Montpellier, des municipales avec le RN, un article de Libération sur une centaine de candidats problématiques pour ces municipales. Et puis on reparlera de monsieur Alloncle, le rapporteur de la commission, avec un article dans Libération qui se désole d'un truc. Je suis archiviste au travail et ça va. C'est cool comme métier en vrai. Je rentre d'une matinale de 3h30 sans pause. Un bonheur ce conflit. Mais Vince, tu bosses sur une chaîne info? Ou sur la radio ou la télé? Salut Vince. Merci Mouno13. Je crains l'escalade si la Russie décide de soutenir militairement l'Iran, sachant que l'Asie a besoin de l'Iran aussi. A priori, dans les articles de ce matin, personne ne semble penser que Vince, réel intermittent, LCI ce matin. Ah, trop bien. Trop bien. Personne ne semble penser que la Russie va venir au secours du régime iranien. A priori. Merci Valsnoop, tu régales. Merci. Waouh. Merci de ton soutien à la chaîne. Merci pour les 5 abonnements. Merci You Don't Know Me Fleur pour le deuxième mois. Merci Best of Big Mike pour le deuxième mois. Merci encore Solbur. Moi, je suis factrice et c'est moins cool, me dit la tia tia. Alors, ça a été un magnifique métier, facteur, mais je sais que les conditions de travail de ce métier se sont beaucoup détériorées ces dernières années. Je sais. Je pense que c'est à ça que tu fais allusion. Pas de sujet sur l'affaire Epstein ce matin. Alors, je lioque pas ce matin, mais je surveille. J'ai vu un article qui n'était pas inintéressant, mais qui apportait pas beaucoup de choses par rapport à ce qu'on s'est dit ces dernières semaines sur le sujet, mais vous savez que c'est un sujet que je suis avec beaucoup d'attention, et à la moindre nouvelle actu sur l'affaire Epstein, je vous la sors bien sûr. Je vous lis, hein. Je vois beaucoup d'analyses sur la Russie, c'est intéressant. Merci à la Bétadine. Merci pour le prime, merci Ariep pour le prime. Ok, les amis, merci de cette bonne ambiance ce matin. Quel programme de la semaine de la revue de presse tous les matins. Salut Sam, je suis moniteur d'auto-école, mon élève est absent, donc j'attends tranquillement au soleil dans ma voiture devant ton live. El Jajar, est-ce que c'est pas la meilleure vie? Merci l'enclencheur pour le deuxième mois. Et donc, alors de la revue de presse tous les matins, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je commence à mettre des bonnes nouvelles de côté pour la revue de presse des bonnes nouvelles qui n'a pas eu lieu samedi dernier, puisqu'on a fait une spéciale Iran. Donc le matin, de l'actu. Le soir, on va essayer de faire un peu de gaming, sauf grosse actu spéciale Iran ou autre. Ok. Top 20 des viewers des chaînes FR Twitch pour le mois de février. Oh, ça m'étonnerait que je sois dans le top 20. Bigitark. Alors, je sais qu'il y a du monde, je sais qu'il y a de l'actu en ce moment, mais si. Top 20? Non. Février? Ah bon? Ah bah super. Bon bah merci à vous. Sérieux? Où est-ce que ça se trouve ça? Quelle est la source? Quelle est la source? Je vois le top 10. J'ai pas trouvé. Ah merci Sugar. Source. Source, t'inquiète. Je me vois pas, hein. Moi je me vois pas, hein. Qu'est-ce que c'est? Encore des inventions, ça. Top du mois de février. Ah si, je suis. Oh ben, elle limite, hein. Oui. Ricrac. Non, en vrai, c'est fou, hein. Merci, hein. Top 20. Sur le mois de février. Oui, top 27, c'est sur 30 jours glissants, Blist, je crois. Moi, c'est plutôt l'info que j'avais, plutôt 26-27, ouais. Top 20, waouh, c'est beau. Bah, merci beaucoup. Ouais, je suis en bonne compagnie, hein. Je vois la Mirayu au-dessus, Shisheyu, JDG, PA, Choachin. Top 9, mon Choachin. Top 9, mon Choachin. Voilà, Zera, Squeezie, Anime, toujours très haut, Gotaga. Gotaga. Tommy! Tommy, ça fait. Et Tommy se maintient à un niveau depuis des mois, c'est une dinguerie. Tommy. Et Kamel le Goat. Waouh. Tommy, c'est fou en vrai. Il a vraiment une commu super fidèle, super compte, puis il stream comme un fou, quoi. C'est vraiment la passion, Tommy, quoi. Qui m'écrit là? Non, c'est rien. Ok, cool, bah merci beaucoup. Oui, donc la semaine, de la revue de presse toutes les semaines, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça manque de streameuses femmes, ce top 20. Bah, je suis bien d'accord, Amelie Snow. Ouais, c'est sûr. Le soir, du gaming. Il y a un monde où je lance, où je sais pas, je finis Beyond Two Souls ce soir, où je lance Kern. Enfin, tu vois, on a des petites envies comme ça. Puis j'ai un petit jeu indé aussi sur, qui met en scène la lutte contre le cancer du sein. Je trouve ça intéressant. Voilà. Et puis, et cette semaine, peut-être l'annonce de mon grand projet. De mon grand projet, mon plus gros projet depuis 5-6 ans. Ta-da ! Voilà, je vous en ai déjà parlé, suspense, mystère, voilà. Le projet, voilà. C'est pas le festival MVP du 11 avril, enfin, je vous dis rien. Je vous dis rien, c'est, voilà. Voilà, c'est pas un copain qui s'appelle Charles qui va venir streamer avec moi ici. Je ne vous en dis pas plus. Est-ce que ce sera payé avec l'argent public? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah bah évidemment.
Et oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent.
Ah oui, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, je n'en dis pas plus, mais d'ici, je pense, d'ici la fin de la semaine, normalement, je vous annonce un immense projet. Voilà. Qui est un truc sympa. Voilà. C'est quoi ce son? Je crois que c'est Monsieur Pascal Pro. Merci, merci Sugar pour le son d'ailleurs. Ah, je ne réponds pas. Non, je ne réponds pas à vos questions. Vous tentez de trouver la vérité, je ne vous réponds pas. Est-ce que je vais remplacer Charles Alonc à la tête de la commission? Je ne dis pas. Je ne réponds pas. Je ne dis pas. Est-ce que le projet est en rapport avec ton suite? Non. Je ne dis rien. Peut-être, je ne sais pas. Merci Anna Bananas, merci Odeus Oro, merci l'enclencheur. Bon, allez, 23 minutes d'intro. Moi, je propose un petit peu de ventoline parce que j'ai les poumons un peu irrités. Je m'en voulais pas. Comme ça, je vais un peu moins tousser. J'ai pas mis mon peignoir ce matin. Non, je l'ai filé à un pote qui vit à Chypre. Il doit me le rendre normalement. Allez, c'est bon là. Est-ce qu'on y va les pruneaux? Est-ce que vous êtes prêts pour la revue de presse? Est-ce que j'ai un go? C'est parti?
Ok.
On va dire un petit bonjour à nos amis qui nous écoutent en podcast. Est-ce que ça marche la tablette? Hop, 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 c'est beau ce que je vois, c'est beau ce que je vois. Attention, on démarre sur les chapeaux de roue. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée, tiens, dans la revue de presse. On est très heureux de vous retrouver. Je dis on parce que sur Twitch, ça y est, c'est lancé depuis 20 minutes et on s'échauffe un petit peu pour être bien en forme pour le début de cette revue de presse. On est le lundi 2 mars 2026. Ça fait 5 ans qu'on fait ça tous les matins sur Twitch, en direct, c'est en replay sur YouTube, c'est en replay depuis septembre sur toutes les plateformes de podcast audio, Spotify, Apple Podcast, Deezer et compagnie. Oui, je vous ai appelé les pruneaux, les gens que j'aime bien, je les appelle les pruneaux. Mon petit pruneau, ma petite prune, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai aucune idée. Et donc, on va commencer comme tous les jours par le sommaire. C'est-à-dire que en quelques minutes, je vais essayer de vous résumer un petit peu l'actu, en tout cas ce dont parlent les journaux. Et puis ensuite, on va développer tout ça pendant en gros 3 heures. Évidemment qu'on va beaucoup parler d'Iran ce matin. Voici le sommaire. L'Iran, bien sûr. Alors hier soir, on a fait une spéciale, une petite soirée spéciale sur l'Iran pour essayer de voir un petit peu les dernières infos. C'était vraiment intéressant d'échanger. Il y avait beaucoup d'infos, d'analyses fort pertinentes dans le chat. Moi, je me posais des questions sur la situation en Iran et certaines des réponses sont venues du chat parce que évidemment parfois vous êtes bien informé et bien mieux que moi. Merci Bobo de gauche pour la force que tu donnes à cette chaîne et en la suivant. Merci beaucoup. Voilà. Tu renforces mes stats et c'est vraiment très gentil. Donc je pense qu'on va passer au moins une heure minimum sur la situation en Iran. Merci Eden Woods pour le soutien. On commencera avec cet article du Parisien. Merci Bobo de gauche, n'hésite pas à sub par ailleurs. Le régime touché mais pas coulé, parce que la grande question qu'on se pose c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant, bien sûr, est-ce que les frappes américaines et israéliennes passées et qui pourraient durer jusqu'à 4 semaines vont faire tomber ou pas le régime. Merci Pierrot pour le soutien à la chaîne, merci, n'hésite pas à sub. C'est pas la peine de supprimer ces messages les gars, vous perdez votre énergie, ça sert à rien. Laissez-les. Moi, ça renforce la communauté. J'aime bien. Voilà. Limite, on peut les éclairer sur 2-3 trucs. Le régime touché, mais pas coulé. La mort d'Ali Khamenei fragilise la République islamique. Un conseil de direction provisoire est chargé d'assurer l'intérim alors que de nombreux Iraniens et Iraniennes espèrent une transition politique. Qu'est-ce qui va se passer en Iran? On a longuement parlé hier soir, on recommence ce matin. Article de La Croix un petit peu dans la même direction ici. Téhéran sans son guide Ali Khamenei tué, mais pas sans armes. Et on le voit avec les frappes contre Israël et les pays de la région du Golfe. Merci Xenos Bobby pour la force et la communauté. Voilà, donc on lira cet article de La Croix, ici sur 2 pages. Ah, t'as raison, peut-être. Regarde, on va faire ça plus joliment, voilà, parce que La Croix a une pagination un peu différente, voilà, c'est plus joli. Ensuite, un chapitre que j'ai intitulé « Iran et États-Unis et maintenant hein, », qu'est-ce qui peut se passer? L'Iran plonge dans l'inconnu, hein, le dossier de libération, ici. Et puis, beaucoup de questions vis-à-vis des États-Unis et de Donald Trump, bien sûr, vu des États-Unis le spectre d'une guerre interminable. L'objectif affiché par Donald Trump de renverser le régime iranien fait craindre l'ouverture d'un long conflit sans fin et qui fait craindre l'ouverture d'un long conflit sans fin dicté uniquement par les intérêts personnels du président. Et cet article dans le Parisien que je trouve très intéressant également, c'est une interview d'un militaire, le général français Mikhail Yakovlev. C'est intéressant les interviews de militaires parce que parfois... On dit parfois que l'armée française, c'est la grande muette, c'est un des noms qu'on lui donne. Pierrot, lâche ton sub plutôt. Et parfois, au contraire, les militaires, ils parlent. Et ils parlent de façon pas toujours diplomatique, ils disent les choses de façon un petit peu cache et directe. Et là, il y a beaucoup de réponses très intéressantes de ce général français dans cette interview du Parisien. Voilà. Et puis, troisième chapitre de ce dossier iranien, vous voyez, je vous ai un petit peu séquencé ça. Est-ce que la France peut-être rattrapé par ce conflit. Hein. Donc je vous ai mis un article de La Croix. La France possiblement rattrapée par le conflit iranien, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, un article dans le Figaro aussi sur les réactions politiques françaises, la réaction de la classe politique française à ce qui se passe là-bas, la classe politique française entre condamnation et réalisme prudent. Vous voyez, je vous ai mis toute une série d'articles pour éclairer au maximum les différents aspects de ce conflit, et on lira La Croix et Le Parisien et Libération et Le Figaro sur ce sujet. Je ne vous ai pas mis d'article du Monde, parce que Le Monde est sorti samedi après-midi, la dernière édition, la prochaine sera en début d'après-midi. Et donc, du coup, c'est dans Le Monde de cet après-midi qui va sortir vers 13-14 heures qu'on va voir des choses intéressantes. Je continue mon sommaire. On vous parlera aussi de cette question à une de la Croix, en fait, qui renvoie à un discours que doit prononcer le président Macron aujourd'hui sur la dissuasion nucléaire. Sur la base sous-marine de l'île Longue près de Brest, où nous avons des sous-marins nucléaires, voilà, enfin quand ils ne sont pas en mission, bien sûr. Au cœur de l'actualisation de la doctrine menée par le président, en vrai, je ne suis pas un spécialiste de la dissuasion nucléaire française, mais ça me semble être un vrai virage. Ah, merci. J'ai un message de quelqu'un que je connais bien qui est membre d'une institution française que je ne citerai pas et qui m'envoie un gentil message à propos de ce qui se passe en ce moment. Merci à toi, je lui répondrai tout à l'heure. Et donc, la nouvelle doctrine, ce serait faire bénéficier d'autres pays européens de la protection nucléaire française, d'où ce titre de la Croix. C'est vachement intéressant, hein. Vers un parapluie nucléaire français sur l'Europe. Voilà. C'est une vraie révolution. Là, j'ai envie d'en savoir un peu plus là-dessus. Voilà. Après, c'est un discours, hein. On va voir ce qui va se passer après. Les municipales, ben, ça approche, hein. Salut Bobodou. Merci Bobodou Gauche. Merci. Oui, c'est intéressant, vous voyez. C'est pour ça que je dis, parfois, il ne faut pas supprimer les messages, il ne faut pas avoir le ban facile. Vous savez que moi, j'adore discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Bobo de gauche, là, qui est venu un petit peu en mode « rend l'argent » tout à l'heure, ce qui est un peu l'ambiance en ce moment sur X, nous écrit, parce qu'on lui a laissé la parole, vous voyez. Moi, je crois à ça, je crois au dialogue. « Bonjour, finalement, ta chaîne a l'air pas mal, merci à toi. Je suis déçu du procédé de France TV » et de la non-neutralité, mais je vais rester. Dommage de ne pas avoir répondu à toutes les questions sur la zénabilité. Bonne revue de presse. Vous voyez, on peut discuter avec les gens. Et donc, les municipales, elles approchent. Alors moi, je vous ai fait des focus sur plusieurs villes, hein, déjà. On a fait un focus sur Paris, bien sûr. On a fait un focus sur toute une série de villes dans un article qui était peut-être dans le Figaro, je ne sais plus. Et là, on a un focus sur Montpellier. Alors, c'est vrai que les pages politiques du Figaro sont de qualité. C'est un journal que j'aime notamment pour ça, ces pages politiques, les pages intérieures politiques, pas forcément l'édito de une, de première page, mais plutôt les articles écrits par le service politique du journal. Les pages culture du Figaro sont excellentes aussi. Et là, on a une page sur Montpellier où LFI veut déloger le maire socialiste, Michael Delafosse. Donc c'est en gros, la ville reste à gauche ou va à gauche, quoi, mais deux gauches différentes, vous l'avez compris, même si le maire sortant est en tête des intentions de vote. Et puis il y a un trouble fait, un chien un petit peu dans le jeu de qui, l'humoriste Rémi Gaillard, qui pourrait obtenir suffisamment de voix pour, non pas devenir maire, hein, mais pour rester au second tour. Rémi Gaillard, l'humoriste, second tour des municipales à Montpellier, c'est vraiment intéressant. Alors que veut-il, que propose-t-il? Je pense que ça vaut un petit éclairage, voilà. À propos des municipales, toujours, un article dans Libération, sur les listes RN, ça c'est un article qui va faire plaisir au président de la commission, les candidats problématiques atteignent la centaine. Libé a commencé à éplucher les candidatures investies par le parti d'extrême droite ou estampillé Union à l'extrême droite. Selon notre premier recensement, une centaine de brebis galeuses ont proféré des propos racistes, antisémites, islamophobes, sexistes, homophobes, pro-russes ou complotistes. Bon, on lira cet article de Libé, puis on verra concrètement ce que reproche Libération à ces candidats, si c'est sérieux, pas sérieux, quelles sont les sources, quelles sont les accusations, quels sont les propos. Voilà. Je vois cette petite photo là avec le petite brebis, le petit mouton. Voilà. Donc on lira ça dans l'IB. Et puis un dernier article pour finir en. En général, on finit sur du une centaine ou des centaines de milliers. une centaine. Et puis on finira avec un petit article. Alors, en général, j'aime bien finir par, avec du léger. Bon, bah, c'est pas le cas ce matin. Donc c'est un article de Libération qui est signé par Claude Askolovitch. C'est plus une tribune d'ailleurs qu'un article. Parce que je ne crois pas que Claude Askolovitch soit journaliste à l'IB. Claude Askolovitch, il a bossé, je crois, notamment au Nouvel Obs, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, j'ai plus son CV en tête. Et là, il signe une tribune, parce qu'il est en colère. Et il dénonce la manière dont... alors, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, Charles Alloncle, rapporteur d'extrême droite de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Il dénonce la manière dont il a dépeint le producteur à France Culture, Galeb Benchak, en agent des frères musulmans, sans susciter de réponse indignée. Et Claude Askolovitch, il écrit « À quoi bon penser toute une vie, puisque les préjugés d'un député peuvent vous renverser ?» Voilà. Et le titre, c'est « Galeb Benchak, penseur de l'islam, calomnié par la bêtise. » Voilà. Ce sera notre petit dessert. Voilà. Et l'article est bien écrit. Bon, Claude Askolovitch, c'est quelqu'un qui a une plume, c'est quelqu'un qui écrit très très bien. Après, qu'est-ce qu'il reproche exactement à M. Alloncle ? Est-ce que c'est fondé ? Qui est M. Galeb Benchak ? Bon, on lira le papier. Voilà. Source, Libération, signature, Claude Askolovitch. Voilà pour le sommaire. Vous en pensez quoi ? Il y a un peu de matière ce matin. Hein ? Hein ? Bien ou bien ? Bien. Il y a une lecture en ce moment. Hein. Je vous lis. De la matière CD Blade ? C'est quoi CD Blade ? J'ai pas la ref. Truc de jeune, ça, non ? C'est dense, hein ? Ouais. Je voulais mettre une émote. Ah oui, j'ai rien compris. Ok, super, bon, on va y aller du coup. Vous êtes très en forme, hein. Waouh, c'est que... Mais c'est... Genre, moi, vous savez, un truc important, c'est de... Quand vous faites un live sur Twitch, c'est de pas trop regarder l'audience. Alors, c'est plus facile quand vous avez beaucoup de monde, comme j'ai la chance d'en avoir, que quand vous avez un ou deux viewers, quand tu lances une chaîne. Voilà, pensez pour tous ceux qui se lancent sur Twitch et dont les premiers temps peuvent être très difficiles, mais... J'essaie de ne pas regarder trop l'audience parce que. Et parfois, pendant tout un live, notamment les lives de gaming, je ne vois pas combien il y a de personnes. Parce que, en fait, il ne faut pas que ça puisse influer un petit peu ton mood ou la façon dont tu vas animer, quoi. Même si c'est beaucoup plus facile d'animer un live devant 4000 personnes que devant 2, parce que du coup, tu as beaucoup de ping-pong, d'écho, voilà, de rebond. Alors, ça, c'est, du coup, ça facilite le travail. Alors, c'est ça qui est c'est un peu vicieux parce que, du coup, le travail est plus facile, hein. Merci Crido pour ton analyse. Tu peux envoyer l'analyse mathématique au président de la commission. Ça lui servira pour le retour s'il veut bien me convoquer à nouveau. Et donc, c'est un peu vicieux parce que c'est beaucoup plus facile pour un gros streamer ou une grosse streameuse d'animer un stream parce qu'il a 1000, même à partir de 100 personnes en vrai, hein, mais 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 pour les plus gros, plus encore. Et donc, c'est autant de gens qui vont créer du contenu par le chat. Alors, voilà. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Mais du coup, tout ça pour vous dire que là, je viens de jeter un œil en regardant l'audience et je ne pensais pas que vous pourriez être aussi nombreux. Plus de 4000 personnes, alors qu'on n'a pas commencé la revue de presse et qu'on vient juste de finir le sommaire. Bon, bah, du coup, on va y aller. Merci pour les conseils. J'avoue que c'est stressant de commencer. Je regarde beaucoup l'audience. Il n'y a pas beaucoup d'interactions. C'est tellement compliqué. Après, moi, c'est différent parce que quand je me suis lancé sur Twitch, j'ai eu la chance d'un alignement des planètes qui fait que je n'ai pas commencé à zéro. On était en pleine crise sanitaire, en plein Covid, il y avait beaucoup de gens à la maison. J'ai été accompagné amicalement par des streamers qui m'avaient pendant plusieurs mois, pendant 9 mois, un peu montré cet univers, sans que je pense d'ailleurs à créer ma chaîne Twitch, mais du coup, les gens me connaissaient un peu sur Twitch alors que je n'avais pas lancé ma chaîne encore. Enfin, je pense à Étoile, je pense à Ponce, je pense à Zerator. Et du coup, quand j'ai lancé ma chaîne, comme j'avais une petite notoriété préexistante liée à mes activités passées, en télé et en radio, bah du coup, j'ai jamais connu ça, moi. En revanche, ce que je sais, c'est que y a parmi les très gros streamers aujourd'hui, et les gros, très gros streamers, il y a des gens qui ont commencé devant un viewer, hein, dans les historiques. Donc c'est possible, mais c'est extrêmement compliqué. Mais c'est extrêmement compliqué. On y va? Allez, on commence l'actu. Après ce petit échange sur Twitch. L'important, c'est d'avoir un contenu perso, quoi, un contenu vraiment qui va faire un peu la différence, quoi. Allez, go. Premier sujet, l'Iran, bien sûr, découpé en trois moments, en trois parties. Le régime iranien touché mais pas coulé. Iran et États-Unis et maintenant. Et est-ce que la France peut-elle être rattrapée par ce conflit? Hop, je passe au premier sujet. Le régime iranien touché mais pas coulé, c'est un article dans Le Parisien. La mort d'Ali Khamenei, donc Ali Khamenei, le chef de la République islamique, hein, le numéro un du régime, fragilise le régime. Un conseil de direction provisoire est chargé d'assurer l'intérim, alors que de nombreux Iraniens et Iraniennes espèrent une transition politique. Que va nous dire cet article? Eh bien que le régime des mollahs, hein, le régime islamique, le régime théocratique, n'est pas tombé. Va-t-il tomber? Voilà. Ça, je ne le sais pas. Lisons le papier d'Anissa Amadi. Bien que décapité, merci à Gare de Lyon, merci Anne KS17 pour l'abonnement offert à la commune, merci My Bro, merci Marie Sunito, merci Popopoum, merci Monsieur Fouras, merci Eden Woods, merci. Bien que décapité, le régime entend montrer qu'il survit. Mieux, qu'il n'est pas ébranlé. L'Iran s'était préparé à tous les scénarios, y compris la mort de son guide suprême, affirme dimanche le président du Parlement iranien. Ses propos sont crédibles. Ali Khamenei était âgé de 86 ans, donc peut-être qu'effectivement sa succession était prête. Le régime préparait depuis longtemps sa succession. Pendant la guerre de 12 jours en juin dernier, l'ayatollah se sentait proche de la fin dans son bunker. Il avait même établi une liste de trois successeurs potentiels. Est-ce que ces trois successeurs faisaient partie des 48 hauts gradés et dignitaires iraniens tués ce week-end? Ça, a priori, on ne le sait pas. Depuis la mort d'Ali Khamenei, samedi, un conseil intérimaire assure la transition du pouvoir dans le pays. Pardon. Comme le prévoit la Constitution, il est composé du président iranien, Massoud Pezeshkian. Je crois que Khamenei, avant d'être ayatollah, il a été président iranien, hein, qui est si vous voulez, un grade en dessous dans le régime politique iranien. Hein. Il faut savoir que les candidats à la présidence iranienne sont désignés par l'ayatollah. Donc composé du président iranien, du chef du pouvoir judiciaire et d'un religieux de haut rang, une forme de triumvirat, donc à trois têtes, qui va diriger le pays jusqu'à ce que l'Assemblée des experts élise un dirigeant permanent dans les meilleurs délais. Un autre dignitaire est appelé à un rôle majeur, c'est le chef du Conseil suprême de sécurité nationale. On voit donc qu'il n'y a pas vacance du pouvoir. Oui, tu as raison de ne pas confondre ayatollah et guide suprême. Oui, tu as raison. Alors on rentre un peu dans le détail, mais ayatollah, c'est un titre religieux. Tu as raison. Et tu as raison. Alors que guide suprême, c'est une fonction. Tout à fait. On rentre un peu dans le détail, mais je l'ai lu, ça. Tu as raison. Ils sont forts, le chat. Hein. Ils sont forts, la commune. Hein. Mais le choix devient maigre. Donc, qui pour succéder à la tête du pays, en gros, à Khamenei? L'opération Epic Fury, minutieusement préparée pendant des mois, donc l'opération américaine. Tiens, je me pose la question de savoir si Epic Fury, c'est la désignation de l'opération américaine et israélienne, ou si c'est juste l'opération américaine. Epic Fury. Je ne l'ai plus en tête. En tout cas, l'opération a décimé la structure politico-militaire de la République islamique. Le chef d'état-major des armées iraniennes, le ministre de la Défense, le chef des renseignements de la police et un conseiller du guide suprême ont été tués en plus d'Ali Khamenei. C'est que l'opération américaine?
Ok.
On dit Fury.
Ok.
Epic Fury. Comme le chanteur corse.
Ok, d'accord.
Vous avez la ref? Ah, sinon c'est poilu. Ah merde. Sinon c'est... Ah non, sinon... Ah oui, furry. Ah oui, c'est poilu. Ah oui. Ah oui. Ah merde. Ah ouais. Ok. Ah ouais, ok.
Ok, merci le chat. Heureusement que vous êtes là. Voilà, c'est ça, c'est l'actualité 2.0. C'est communautaire, hein, c'est interactif. Quand je dis une bêtise, la commu est là pour me corriger. Vous voyez? Ouais, comme quoi c'est bien d'être nombreux, quoi. Donc, ok. Epic Fury. Right. Comme le chanteur corse. Ok.
Sa mort signe-t-elle la fin de la République islamique ? Israël parle d'un tournant décisif, rien n'est moins sûr, ça c'est la question au centre de tout ça, hein. Est-ce que le régime va tomber ou pas ? La crainte d'un scénario libyen ou syrien, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire un long chaos après la chute du dictateur en place et dans toutes les têtes, c'est-à-dire on est un espoir de démocratie, de paix, de prospérité pour un pays, puis en fait c'est des années de guerre civile. Mais dans ces pays, le système tenait sur les épaules d'un seul homme. En Iran, la structure du corps des gardiens de la révolution est différente. C'est-à-dire que la tête du régime est tombée, mais le cadre est toujours là. Si l'omniprésence du guide suprême donnait l'illusion d'un pouvoir absolu concentré entre ses mains, son autorité reposait en réalité sur un dense réseau d'institutions pour le servir, mais aussi pour le surveiller, voire le contraindre, et si nécessairement le survivre. Et Luna Perrot écrit « Ça va rien changer, on va le remplacer au final. Ouais. » Le régime est assez vissé pour fonctionner sans guide suprême, même. Juste en dessous de lui, il y a 5 ou 6 entités de la même importance. L'Iran compte 16 services de renseignement. Incroyable. C'est un système révolutionnaire qui a beaucoup investi dans la planification des changements de leadership. Lorsqu'elle est sous pression, sa structure est conçue pour se rassembler plutôt que pour s'effondrer. Justement, tout se joue désormais sur ce rassemblement, hein, des membres, des institutions qui composent ce régime. Le bref message qu'a adressé Trump aux autorités iraniennes vise à empêcher ce rassemblement. Vous devez déposer les armes et avoir une immunité totale, ou dans le cas contraire, faire face à une mort certaine. En fait, il offre une porte de sortie au cadre du régime. Il espère en fait que les cadres du régime vont le lâcher sous la menace d'être frappé. Après avoir porté les coups, donc c'est bon. Et là on comprend pourquoi l'opération militaire devrait durer 4 semaines. Après avoir porté les coups, les États-Unis et Israël attendent maintenant l'implosion si la mort de Khamenei marque le début d'une vague de défection massive au sein de l'élite. Alors cela pourrait représenter une véritable brèche dans le système et le commandement du changement de régime. Et le commencement, pardon, du changement de régime tant attendu. Dans le cas contraire, il s'agira d'un assassinat exceptionnel, ni plus ni moins, analyse un correspondant de guerre britannique. C'est très intéressant. Certains observateurs pressentent un scénario à la vénézuélienne, hein, Maduro, vous vous rappelez. Je ne serais pas étonné. Alors, le scénario à la vénézuélienne, ref, cadre. Explication, contextualisation. Ce qui se passe au Venezuela, c'est que le pouvoir n'a pas changé. Les États-Unis ont attrapé Maduro, il est en prison aux États-Unis, il va être jugé aux États-Unis. Mais le pouvoir vénézuélien n'a pas changé. C'est la vice-présidente qui, je crois, a le pouvoir aujourd'hui. Donc rien n'a changé. Et il se dit que les États-Unis ont dealé avec certains cadres du régime vénézuélien pour qu'eux puissent rester au pouvoir à condition d'avoir une politique plus conciliante avec les États-Unis, notamment sur la question du pétrole. Pardon. Donc la question qui est posée, c'est est-ce que les États-Unis vont faire la même chose avec l'Iran, hein. Et quelqu'un dit, qui nous parle, toujours se demander qui nous parle, un chercheur qui s'appelle David Kalfa, dit « Je ne serais pas étonné qu'un canal de discussion ait été établi avec certains responsables haut placés, prêts à faire des concessions sur la balistique, sur le nucléaire, pour assurer la survie du régime. Les Pasdaran, les gardiens de la révolution, ne forment pas un bloc monolithique. Certains sont corrompus à la tête d'un empire économique et pourraient privilégier leurs intérêts. » C'est intéressant, hein ? Donc, la suite, c'est la question que nous nous posons tous ce matin.
va dépendre de l'endurance du régime. En attendant, il met en scène un contrôle total de la situation. Une façon d'empêcher une mobilisation populaire d'ampleur, comme en début d'année, celle-ci pourrait être fatale aux gardiens de la révolution. Trump le sait, il a appelé le peuple iranien à s'emparer du pouvoir dès la fin de l'opération militaire. Un mot de Reza Pahlavi, le fils du Shah, hein, l'ancien régime monarchique, dictatorial, qui avait avant la révolution islamique de 79, le fils de l'ancien Shah, lui est en exil, et a proposé depuis un moment déjà d'incarner le nouveau pouvoir. Alors lui, dit-il, pas pour rétablir la monarchie, le régime des Shahs, mais pour assurer une sorte de transition vers un régime démocratique, bon, c'est sa promesse. Reza Pahlavi, le fils du Shah déchu, qui se rêve aux rênes du pays, a lui aussi exhorté les Iraniens à patienter avant de descendre dans la rue. La révolution n'est pas pour tout de suite, les Iraniens sont encore traumatisés par la répression sanglante de janvier, hein, répression monstrueuse, hein, de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes. À l'heure des bombardements, les Iraniens n'ont qu'une idée en tête, aujourd'hui se mettre à l'abri. Voilà. Très bel article, vous voyez, l'article du Parisien, là, en cinq colonnes, en quelques phrases, je trouve qu'il peint assez bien la situation. Le fils de l'ancien dictateur qui promet la démocratie, on y croit fort, bah c'est toute la question des honneurs, tu as raison. On en a parlé, salut Omni, on en a parlé en début de stream. Merci à Gare de Lyon pour le soutien. Merci Anne pour l'abonnement offert à Pierrot. Merci my bro pour ton message. Oui, à Gare de Lyon, c'est un beau pseudo, ouais, je suis d'accord. Le chat qui tente de caresser Trump dans le sens du poil, c'est très beau, je valide. Waouh, elle est belle cette citation de Paul Valéry, le poète, les jeunes parcs, tout ça. De colle absurde dans le chat, deux points ouvrez les guillemets. On rappelle les mots de Paul Valéry, deux points ouvrez les guillemets. La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent bien mais ne se massacrent pas. Merci colle absurde. Merci Captain Bulot. Ça c'est un beau pseudo ça. Merci Lexi pour le cinquième mois. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, je suis en train de parler de l'Iran. Eh ben, c'est beau. Bon, on enchaîne. On reste dans ce chapitre régime iranien touché mais pas coulé avec un article de La Croix qui dit peu ou prou la même chose mais qui va peut-être nous apporter. C'est la Jeune Parc. J'ai dit de les Jeunes Parcs ? Oui, c'est de la Jeune Parc. Bravo. Donc, article qui dit peu ou prou la même chose, mais qui va peut-être nous apporter d'autres actus. Téhéran sans son guide, mais pas sans armes. Le régime de Téhéran décapité, mais pas anéanti. Lisons. Je vais le lire en diagonale pour de vous lire que ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'article du Parisien, bien sûr. Hein. On va pas se répéter, quoi. Donc ça revient sur la frappe de samedi contre Ramenei. Hein. Ça rappelle les gens qui ont été tués lors de cette frappe de samedi. Voilà. Et La Croix ajoute, malgré l'élimination de ces clés de voûte religieuses, politiques et militaires, le régime veut afficher sa continuité. Merci GBLC. Merci Alexis. L'Iran s'était préparé à tous les scénarios, y compris la mort de son guide suprême, a lancé le président du Parlement. Voilà, donc le triumvirat qui assure la continuité du pouvoir, on en a parlé tout à l'heure. Le régime est affaibli, mais se maintient. Résume une professeure de sociologie politique à Paris, qui s'appelle Azadeh Kian. Lors de la guerre des 12 jours en juin dernier, le régime avait déjà subi de lourdes pertes dans les frappes israéliennes. Toutefois, ceux qui avaient été éliminés alors avaient été remplacés, comme le sera le guide Ali Khamenei. Par ailleurs, les forces anti-émeutes, les Basidji, environ 1 million. 1 million? Ben attends, mais c'est combien la population iranienne? Il y a 1 million de Basidji? Mais c'est fou! Ça fait beaucoup d'argent public. Ils sont 83 millions. J'ai 83 millions. Vous me dites 90. 87 millions. Ah, j'ai plusieurs sources. 87. Ok, pas loin de 90 millions. Voilà. Et il y a 1 million de Basidji. C'est énorme. Énorme. Donc, par ailleurs, les forces anti-émeutes, vous vous rendez compte? Bah, c'est plus que les forces anti-émeutes d'ailleurs, mais bon. Les Basidji, environ 1 million, mais c'est gigantesque. Enfin, 1 million, selon certaines sources. De l'Assemblée nationale, c'est plusieurs centaines de millions. Mais bon, on va rester sur le chiffre officiel. Donc, ont été formés et placés sous l'autorité directe des gardiens de la Révolution. Très idéologues et fidèles au régime, ce sont eux qui matent dans le sang les révoltes et les manifestations. Le régime islamique a beaucoup investi financièrement dans ces différentes forces, lesquelles auraient beaucoup à perdre si le régime tombait. L'armée régulière, le parent pauvre des forces armées, dispose quant à elle de peu de moyens financiers. C'est étonnant, hein ? Elle compte actuellement 400 000 membres. Il y a moins de soldats dans les rangs de l'armée iranienne, 400 000 personnes, que de Basidji, les forces anti-émeutes. C'est fou. Alors, là on a parlé des hommes, parlons des armes. Si la guerre des 12 jours de juin dernier a largement entamé les défenses anti-aériennes iraniennes, elle n'a pas empêché Téhéran de reconstituer rapidement une large partie de son arsenal balistique, hein, puisque l'Iran a une industrie en capacité de produire ses armes, ce alors même que l'armée israélienne a annoncé dimanche avoir détruit environ la moitié des stocks de missiles à cette période. Ainsi, en décembre dernier, la presse israélienne rapportait que l'Iran avait reconstitué son stock avec environ 2000 missiles lourds et un rythme de production s'élevant à plusieurs dizaines de missiles sol-sol par mois. Pour y parvenir, Téhéran a notamment bénéficié de l'assistance de la Chine, qui lui aurait vendu des systèmes de défense solaire, de missiles anti-navires et aussi des drones. Mais son arsenal, ayant une portée maximale de 3000 km, parce qu'on parle beaucoup du défi du régime iranien de se doter de l'arme atomique, mais parallèlement, il y avait aussi le défi balistique de réussir à avoir des missiles qui pouvaient porter des charges beaucoup plus loin. Mais son arsenal ayant une portée maximale de 3000 km, l'armée iranienne doit se résoudre à frapper des cibles dans la région, ce qu'elle a fait tous azimuts ces dernières heures, on en parlait longuement hier soir, et malgré une chaîne de commandement décapitée. Ces frappes de missiles, de drones ont fait au moins 9 morts en Israël, ont fait des dégâts matériels et humains dans son voisinage immédiat à Erbil en Irak, dans les pays du Golfe, où sont stationnées les troupes américaines, comme à Abu Dhabi, Riyad, Doha, Manama, Dubaï. Téhéran a même annoncé avoir visé le porte-avions américain Abraham Lincoln dans le Golfe avec 4 missiles. Ça, on en a beaucoup parlé hier. Excusez-moi, je lis un historique. J'aime bien Pierrot 2021, ça nous fait un petit peu de content. Un petit peu de content. C'est bien. Petit shiny, on se le garde. C'est bien, moi il faut aussi un peu de divertissement. Là, on parle de choses tellement sérieuses en ce moment. Moi je trouve que c'est bien qu'on ait un peu de divertissement. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que effectivement, j'ai entendu parler de la mort de 3 soldats américains et Et je me disais, c'est bizarre, on n'a pas beaucoup d'infos. Et pour cause, l'armée américaine a de son côté annoncé la mort de 3 de ses soldats sans donner plus de précisions. Je dors pas, je suis en train de voir si je vous lis tout l'article. Bon, hier je vous parlais des risques de choc pétrolier, donc ça je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, hein. Voilà. Mais j'en ai parlé déjà hier soir. Alors, quel soutien pour l'Iran? Merci Quick 222, merci Korangi, merci. Quel soutien pour l'Iran? Hein, parce que hier soir, des gens m'ont demandé, mais Sam, est-ce que tu penses que la Russie peut venir soutenir le régime iranien? Est-ce que tu penses que la Chine peut venir soutenir le régime iranien? Lisons. L'Iran est aujourd'hui un pays isolé sur la scène diplomatique. Oui, j'ai vu Anne, c'est pas grave. L'Iran est aujourd'hui un pays isolé sur la scène diplomatique parmi les grandes puissances internationales. Moscou et Pékin ont condamné les attaques. Moscou et Pékin ont condamné les attaques. Avec modération. Le président russe Poutine, bon, qui est un tout petit peu occupé sur un autre front, hein, a dénoncé dimanche, dans une lettre adressée à son homologue iranien, la mort du guide a dénoncé la mort du guide suprême iranien, je ne comprenais pas la phrase, qualifiant cet assassinat, donc je cite Poutine, perpétré dans une violation cynique de toutes les normes de la morale humaine et du droit international. Quant à Pékin, le ministère chinois des Affaires étrangères a condamné lui aussi la mort du guide qui constitue, je cite, « une violation grave de la souveraineté et de la sécurité de l'Iran, un piétinement des objectifs et principes de la Charte des Nations Unies et des normes fondamentales des relations internationales, appelant à l'arrêt immédiat des actions militaires. » Donc, condamnation diplomatique de Moscou et de Pékin. Alors c'est vrai que je ne me suis pas arrêté sur la déclaration de Poutine, mais le président russe Vladimir Poutine, qui dénonce une violation cynique de toutes les normes de la morale humaine et du droit international, parfois on lit un peu trop vite certaines infos, je pense que j'aurais dû ralentir, c'est vous qui m'avez fait revenir en arrière, en me disant il y a un petit contre son camp quand même. Waouh, attends, j'ai envie de relire cette phrase quand même. Un assassinat perpétré dans une violation cynique de toutes les normes de la morale humaine et du droit international. Bon, c'est un peu compliqué, quoi. À porter comme parole. Maintenant, est-ce que l'Iran chiite, peut espérer une mobilisation de la rue musulmane? Des musulmans qui parfois sont chiites, mais majoritairement sunnites. En Irak, pays où les chiites sont majoritaires, l'influent chef chiite Moqtada al-Sadr a annoncé 3 jours de deuil. À Bagdad, des manifestants qui tentaient de prendre d'assaut la zone hébergeant l'ambassade des États-Unis ont été empêchés par la police. Au Pakistan, qui abrite une importante minorité chiite, 15% de la population, des centaines de personnes ont pris d'assaut le consulat américain à Karachi. Bilan, 9 morts, 32 blessés parmi la police et les manifestants. Question, est-ce que dans certains pays musulmans, la rue va se mobiliser ou pas pour l'Iran, quoi. Je vous lis un petit peu maintenant, avant de passer au deuxième bloc de notre revue de presse iranienne ce matin, Iran et États-Unis, et maintenant. Je vous lis. Salut Alexandra, bonne journée. Pierrot 2021, c'est mon nouvel ami, hein, c'est le roi du content. Est-ce qu'on va parler de Jack Lang aujourd'hui? Alors Pierrot, n'hésite pas, t'as littéralement des heures de stream sur cette chaîne sur l'affaire Jack Lang en lien avec l'affaire Epstein, avec la révélation de Mediapart notamment, qui a fait un travail incroyable. Tu peux te régaler, Pierrot, c'est tout en replay. En plus, comme quelqu'un t'a filé un abonnement, tu peux y accéder easy, sans passer par YouTube. N'hésite pas à aller voir. Même là, maintenant, tout de suite, là, en fait, tu peux même y aller maintenant, en vrai. Comme manifestement, c'est la question que tu te poses ce matin. Est-ce qu'on parle de l'affaire Lang? Eh bien, bonne nouvelle. Il y a plusieurs revues de presse où on a évoqué cette affaire. Eh bien, je t'invite à y aller, mais même maintenant. Même maintenant, même, tu vois. Même maintenant. Comme ça, tu vas pouvoir voir beaucoup de choses très intéressantes. Mais vraiment maintenant, par contre. Parce que je pense que c'est important pour toi que tu t'informes sur ce sujet aussi. Alors, maintenant, avec des articles dans Libé et dans Le Parisien, tentons de répondre à cette question. Iran et États-Unis, et maintenant. Alors, on va commencer par cet article de Libération. L'Iran plonge dans l'inconnu. Alors là, vous allez voir que parfois, on va voir des infos qu'on a déjà entendues ce matin. Dans ce cas, je vais passer et je vais essayer d'aller directement aux choses qu'on n'a pas encore lues ou entendues. L'atmosphère est étrange et incroyable, raconte Ali, joint à Téhéran. Dans un message audio, il confie ses sentiments mitigés de joie et d'incertitude. Parce que la grande question qu'on ne s'est pas encore posée ce matin, c'est qu'est-ce qu'en pensent les Iraniens, bien sûr. Hein, c'est à eux de décider de la suite. Dans un message audio, il confie ses sentiments mitigés de joie et d'incertitude. Ali, comme beaucoup d'Iraniens, est descendu dans la rue après la mort du guide suprême. Samedi, jour de l'offensive israélo-américaine, marquera un point de bascule pour le pays. Hein. Bon, après, là, c'est les infos sur la non-vacance du pouvoir. Ok, très bien. Libé nous rappelle toutes les infos qu'on a vues ce matin, donc je vous les redis pas. Donc la question qu'on posait tout à l'heure, c'est est-ce que le régime va tenir? Un historien spécialiste de l'Iran contemporain qui s'appelle Clément Terme, écrit, enfin, dit à Libé, la question qui se pose maintenant est moins celle de la transition que celle de la loyauté. Hein, Ramenei agissait comme une sorte de gourou, comme un arbitre au-dessus de la mêlée. Personne aujourd'hui en Iran, ni même Larijani, n'a ce genre d'autorité. Il faut attendre de voir s'il y aura des défections dans le régime. La parole à Frédéric Ancel, qui est un géopolitologue français. Les facteurs constitutifs de la chute d'un régime ne sont pas réunis. Et parmi eux, le principal, le rapport militaro-sécuritaire. Tant qu'une partie de l'armée ne s'est pas révolté en faveur de la population, le régime peut encore tenir. L'armée régulière, vous savez, les 400 000 hommes dont on a parlé tout à l'heure, pourrait être la clé de ce qui va se passer à court terme, sans mettre de côté le rôle des gardiens de la révolution, qui tiennent de facto toute la structure économique et militaire, mais on voit mal pourquoi eux abandonneraient le pouvoir, puisqu'ils ont tout intérêt à le conserver. Vous voyez, alors parfois les infos sont contradictoires puisque Libé nous dit que les gardiens de la révolution sont moins nombreux que les soldats. Alors tout à l'heure, un article nous disait que les Pasdaran étaient 1 million et les soldats iraniens 400 000. Donc voilà, ça c'est la démonstration que parfois les infos sont imprécises ou contradictoires. Donc là, il y a un sujet qu'il faudra préciser. Moins nombreux que l'armée régulière, écrit Libé à propos des Pasdaran, ils pourraient être dépassés par une défection des soldats. Donc ça, c'est l'une des hypothèses. C'est l'une des hypothèses. C'est-à-dire que les États-Unis ne souhaitent pas réellement la chute du régime, mais la chute de ce régime qui vient d'être frappé, et qu'une république islamique qui se maintiendrait au pouvoir, mais avec des ambitions moindres en matière notamment nucléaire et balistique, suffirait à Washington. C'est ce passage. Le scénario sur lequel semble tabler Trump, donc ça c'est une analyse, parce que c'est pas ce qu'il déclare officiellement, celui de la transition douce. Le régime dans son essence théocratique pourrait chuter au profit d'un pouvoir structurellement différent porté par la figure du fils du chat. Hein, parce que, voilà, c'est... Le but des Américains et des Israéliens est probablement d'éliminer en masse toute la superstructure de commandement sans détruire tout le régime pour ne pas reproduire le scénario irakien. Ah non, non, pardon, je corrige ce que je viens de dire. Avec le fils du chat, ce serait pas le maintien de la République islamique. Transition douce, ouais. Donc le pari trumpien, ce serait plutôt qu'une partie du régime actuel serait OK pour l'arrivée du fils du chat au pouvoir. Pour garder notamment leur pouvoir économique. Établir qu'au sein du régime actuel, des membres auront à cœur l'évitement du chaos, donc pour garder notamment leurs avantages actuels, et prêts à faire le lien avec les Iraniens de l'extérieur. C'est beaucoup de paris. Hein. Reste l'inconnu du peuple. Oui, quand même, à un moment, parlons des Iraniens et des Iraniennes. Samedi matin, Trump a annoncé clairement ce qu'il attend des Iraniens, un soulèvement. Les Iraniens qui contestent régulièrement le pouvoir ces dernières années, hein, des révoltes qui sont, vous le savez, réprimées dans le sang, malgré la peur et la réponse toujours plus radicale du régime, mais sans appui des forces militaires, la bataille des manifestants est perdue d'avance. Les Iraniens se battent avec des pierres contre des mitraillettes, ils utilisent des masques contre le système de reconnaissance faciale ultra sophistiqué que la Chine a vendu à l'Iran. Voilà à quel point cette bataille est inégale. Il faut donc voir si les manifestations pacifiques peuvent se transformer en insurrection. Analyse Clément Terme, le chercheur qu'on citait tout à l'heure. Voilà. Voilà. Sachant que les manifestations ne peuvent absolument pas se tenir actuellement, pour une raison que vous connaissez bien sûr, c'est que tant qu'il y a des frappes, tant qu'il y a des bombardements américains et israéliens, vous ne pouvez pas avoir de manifestations, bien sûr. Les gens ne vont pas descendre dans la rue, là, maintenant, tandis que pleuvent les bombes, hein, c'est une évidence. Face à un régime affaibli, l'opportunité existe, mais seulement si les bombes s'arrêtent, voilà, c'est ce que je disais. Et même si le processus est lent, il reste difficile d'imaginer comment, sur le long terme, la République islamique pourra se remettre du choc de cette guerre, dont les secousses se feront ressentir encore longtemps en Iran et dans toute la région. C'est hyper intéressant. Je vous lis. Merci d'être aussi nombreux. Merci beaucoup. Je vous lis. Intéressant l'histoire du système de reconnaissance faciale vendu par la Chine à l'Iran là. Attention les secousses, comme disait Yannick. Merci Bobo de Gaulle, qu'on a la ref, elle est pas mal. Merci Caroline Inu. Merci. Merci pour ton message. Merci pour ton message. Bonjour, sympa, le hoodie noir, c'est une OP ? Oui, c'est une OP, avec de l'argent public.
Eh oui, ça m'a été, il a pris de l'argent.
Alors, on va rester avec Libé. Maintenant, avec l'angle de la guerre vue des États-Unis. L'objectif affiché par Donald Trump de renverser le régime iranien fait craindre l'ouverture d'un long conflit sans fin, quelqu'un me disait tout à l'heure, j'espère que ça ne va pas durer des années, dicté uniquement par les intérêts personnels du président. On en revient toujours à George Orwell. Entre les lignes des affirmations de Trump ce week-end au sujet de cette attaque, il y a ce slogan de 1984, le roman de George Orwell. La guerre, c'est la paix. À écouter le président des États-Unis, il n'y avait donc pas d'autre solution pour pacifier le Moyen-Orient que de le plonger dans un enfer de feu. Pour justifier l'opération Epic Fury, parce que vous m'avez appris tout à l'heure à prononcer le mot, sinon ça veut dire autre chose, lancé ce week-end, le milliardaire a agité la menace d'un Iran doté de l'arme nucléaire. Il jure que la République islamique n'a jamais voulu négocier de bonne foi depuis les dernières frappes, hein. Qu'elle n'a cessé de vouloir détruire les États-Unis depuis sa création, hein, les États-Unis qui étaient désignés par le régime iranien comme le grand Satan, et qu'il est temps que le régime soit donc renversé. Rien n'est dit en revanche sur la manière d'y parvenir. Alors ça, c'est Libé a raison. Officiellement aujourd'hui, Trump et les États-Unis ne nous disent pas comment ils vont faire. Aux États-Unis, où le président a été élu sur la promesse d'en finir avec l'intervention à l'étranger, l'interventionnisme. Merci beaucoup, Ishm, pour le prime. La perspective d'une nouvelle guerre sans fin inquiète autant qu'elle indigne. La mort de 3 soldats américains ce week-end, dans des conditions un peu mystérieuses, parce que pour l'instant, on n'a pas d'infos, ravive les plaies de la guerre contre la terreur lancée par Bush après le 11 septembre 2001. Ces centaines de victimes, ces milliers de vétérans traumatisés, dont beaucoup voyaient en Trump un isolationniste convaincu, prêt à tourner la page. Trump a beaucoup dénoncé, vous savez, les guerres menées par les États-Unis. A été élu en partie sur cette promesse. Là où il tient parole, c'est qu'il n'envoie pas de soldats sur le sol de ses opérations extérieures. C'est essentiellement des frappes aériennes, quoi. Voilà. Sauf des forces spéciales pour capturer Maduro, par exemple. Mais c'est l'espace de quelques heures, quoi. Ah, bah c'est voilà. Libé dit un peu la même chose. Si jusqu'ici l'administration s'est contentée de frappes chirurgicales pour détruire des cibles précises à l'étranger, ou envoyer ses forces spéciales pour enlever le président vénézuélien, Nicolas Maduro, l'idée de renverser un régime théocratique paranoïaque obsédé par sa propre survie constitue maintenant un véritable saut dans l'inconnu. La stratégie de la décapitation a peut-être fonctionné, mais tuer Khamenei, qui était âgé et infirme, n'est pas la même chose qu'un changement de régime, explique un éditorialiste du Washington Post. S'il existe un plan américain pour la suite, je n'ai entendu aucun responsable américain ou israélien l'expliquer. L'inquiétude en creux, notamment des démocrates américains, c'est que l'ancien magnat de l'immobilier, donc Trump, ait déclenché cette guerre plus par intérêt personnel. Merci Azafara pour la force que tu donnes à la chaîne. Que pour le bien des Iraniens opprimés par les gardiens de la révolution. Beaucoup y voient une nouvelle distraction à l'heure où Trump est de plus en plus impopulaire, affaire Epstein notamment, avec une politique économique qui ne convainc pas et l'affaire Epstein qui l'embarrasse. Donc est-ce qu'il y a des arrière-pensées de politique intérieure pour Trump? Salut Pantoufle. Dans ces frappes, dans cette opération militaire, c'est la question qu'on évoquait déjà hier. C'est l'analyse de certains chercheurs notamment. L'historien par exemple Timothy Snyder redoute que le clan Trump, dont le business au Moyen-Orient fleurit, offre en attaquant l'Iran un retour de faveur aux États arabes du Golfe. Compte tenu de la corruption flagrante de l'administration, on est en droit de se demander si les forces américaines ne sont pas désormais utilisées à la demande. Alors là, cette analyse est intéressante. Ce serait que l'armée américaine serait intervenue pour faire plaisir aux États arabes du Golfe, alors que la famille Trump a des intérêts économiques avec ces pays. Sauf que, hier, on a lu un article qui disait exactement l'inverse, que les pays du Golfe étaient furieux de ces frappes américaines et israéliennes qui vont déstabiliser toute la région. Donc là, c'est des analyses qui sont un peu contradictoires. À vous de choisir celle qui vous semble la plus pertinente. Avec une déstabilisation de la région qui est bonne ni pour l'économie de la région, ni pour le tourisme. Vous savez, les pays du Golfe, certains pays du Golfe ont misé massivement sur le tourisme. Prenez l'exemple de Dubaï, par exemple. Mais rien de tout cela ne saurait tenir à l'épreuve du temps. Plus cette guerre décidée uniquement avec Israël et semble-t-il l'approbation de l'Arabie Saoudite sera longue, plus l'indignation montera aux États-Unis, puisque n'oublions pas qu'il y a des élections de mi-mandat, de mid-terms qui arrivent aux États-Unis dans quelques mois. Hein ? C'est Libé. C'est la police de Libé. Police de caractère. La fermeture du détroit d'Ormuz et la hausse du cours du pétrole risquent d'augmenter le prix de l'essence à la pompe, d'affaiblir encore le pouvoir d'achat des Américains. Merci Lil Rim pour le raid, c'est adorable. Je vais vous montrer la chaîne qui nous arrête dans un instant. On fait une grosse page Iran, Lil Rim, merci de ton raid. Mais après, il y a d'autres actus qui arrivent. Des Américains qui se soucient plus de leur porte-monnaie que des Iraniens. La perspective d'une disparition du régime seulement grâce à une campagne aérienne semble illusoire, on l'a bien compris. Merci Lil Rim. Tu étais sur quoi comme contenu, tu peux nous dire? Tu streamais quoi? Ce qui pose une question majeure à laquelle Trump ne semble pas prêt à répondre, l'envoi de troupes au sol. Alors là, je peux me tromper, mais Trump, il a notamment été élu en dénonçant les errements militaires et diplomatiques de certains de ses prédécesseurs dans des opérations militaires à l'étranger, quoi. Et la mort de soldats américains. Je n'imagine pas un seul instant Trump envoyer des GIs sur le sol iranien. Je peux me tromper, mais au regard de ses actions passées et de ses promesses de campagne, ça, y a aucune cohérence, quoi. Ce qui pose une question majeure à laquelle Trump ne semble pas prêt à répondre, l'envoi de troupes au sol. Peut-être peut-il encore convaincre une partie de sa base que la guerre, c'est la paix, mais cela deviendra difficile s'il envoie leurs enfants mourir au front. Merci encore Lil Rim. Je vous montre la chaîne qui vient de nous raid. Je te remercie. Déjà, je vais voir si je te suis ou pas. Oui, ah, je te suis pas. Et ben, c'est fait, comme ça je vais pouvoir découvrir une nouvelle chaîne. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Alors moi, j'aime bien lire les descriptions de chaînes Twitch parce que parfois c'est charmant, parfois c'est poétique. C'est, voilà. Et là, je vois par exemple un « Hey, mon petit coquelicot » qui fait bien plaisir. « Hey, mon petit coquelicot ». Donc, t'as commu les coquelicots ou pas? Si tu cherches une safe place dans laquelle il n'y a ni tabou, ni gêne, ni pudeur, ni jugement, et une streameuse bipolaire qui passe de débat sérieux à pétage de plomb, alors cet endroit est fait pour toi. C'est une très belle description de chaîne. Voilà. Alors je ne sais pas si tu as répondu sur le contenu que tu streamais ce matin, mais en tout cas merci beaucoup pour ce live. Just chatting, jeu d'horreur et du lol. Bah vous savez quoi, je vous épingle cette chaîne moi. N'hésitez pas à cliquer à follow cette chaîne. Je vous la mets en haut du chat. Vous avez juste à cliquer et à suivre, à follow, hein? Parce que ça me semble être une très belle chaîne. Ok ? Merci. Merci encore pour le raid. Et maintenant, je te suis, donc je pourrais le soir, au moment du coucher, si tu streams le soir, regarder un petit peu ton contenu. C'est mon petit plaisir du soir. Après avoir lu les journaux, c'est de regarder un petit peu les autres streams et des amis streamers et streameuses. Je vous lis un petit peu sur ce qu'on vient de lire sur les États-Unis. C'est vachement intéressant. Et puis on enchaîne. Il s'est fait aussi élire sur la promesse de sortir les dossiers Epstein. Ouais, je sais, c'est bien pour ça qu'il est un peu dans la sauce d'ailleurs. Merci pour les follow pour Lil Rim, c'est gentil. Vous êtes top. C'est tout en haut du chat, il suffit de cliquer. J'ai fait 8 heures de Just Chatting, à la fin j'étais sur LOL, j'étais en road to Emerald. 8 heures ? T'as fait un stream de 8 heures ? C'est beau, non ? C'est beau, non ? Ok. Allez. Là je reste dans mon chapitre Iran et États-Unis maintenant avec un article du Parisien. C'est une interview d'un militaire. Bon. C'est intéressant aussi d'avoir un regard d'un militaire français, un général français qui s'appelle Michel Yakovlev, interrogé par le Parisien, et qui dit Donald Trump joue la crédibilité militaire de l'Amérique. C'est hyper. Je trouve ça plutôt intéressant. Let's go. Donc au début, le Parisien rappelle les infos, nous présente le général Michel Yakovlev, ancien numéro 4 de la chaîne de commandement de l'OTAN et qui décrypte cette opération militaire. Ah, je ne vous ai pas mis l'article. Pardon, excusez-moi. Voici l'article. Merci Chouka. Les frappes israélo-américaines samedi ont décapité le régime iranien. Pourquoi l'offensive se poursuit-elle? Le régime des Mollahs a certes perdu des têtes, mais il n'est pas anéanti puisqu'il arrose à tout va dans le golfe arabo-persique. J'aime bien le vocabulaire des militaires parfois. Ça arrose à tout va. Jalasti, ne t'inquiète pas pour mes petits les petites mousses d'effervescence là sur X. Franchement, la vraie vie n'est pas là. Tout va bien. Et moi, je sais faire bien la différence et je suis très, très apaisé et serein par rapport à tout ça. L'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il est plutôt là, avec vous. Les centres de pouvoir iraniens ont été détruits. Il reste néanmoins des stocks de missiles et des lanceurs qui me semblent très compliqués à exterminer. Les Iraniens sont très bons pour dissimuler leurs engins. Bon, cette phrase hors contexte est un peu étrange, mais je vous rappelle qu'il s'agit de questions militaires. Jusqu'à quand le régime peut-il tenir et riposter ? Il arrive à lancer, semble-t-il, des centaines de missiles. Le but du régime des Mollahs aujourd'hui, c'est de survivre, de montrer qu'ils seront encore là quand les Israéliens, les Américains arrêteront de taper. Merci Juju, 72. Merci Plotizi. Merci Sioud. Merci pour ton message. Merci Ishma. Ils visent les monarchies du Golfe, d'abord parce qu'ils n'ont pas beaucoup de missiles capables d'atteindre Israël. Ensuite, parce que ces monarchies du Golfe sont les bases arrière des avions américains. Ils veulent contraindre ces royaumes à faire pression sur Trump afin qu'il mette fin à ces attaques. Hier, on se posait la question de savoir pourquoi l'Iran frappait les pays du Golfe. Voilà, on a des éléments de réponse ici, parce que dans ces pays du Golfe, il y a des bases américaines. Vous l'avez compris. D'ailleurs, pour l'instant, ces monarchies du Golfe n'ont pas répliqué à ces frappes iraniennes. Hein, sauf si s'est passé des choses ces dernières heures. Jusqu'où le président américain est-il prêt à aller ? Ça, c'est une question intéressante. C'est la question à 1000 balles, dit-il. Dans l'esprit de Trump, il n'est pas question que cette guerre dure. Il n'en a pas les moyens, car son armada n'est pas si puissante qu'elle paraît. Alors là, il nous parle de l'armada américaine, il nous dit qu'elle n'est pas si puissante qu'elle paraît. Elle a une capacité de feu, on parle des deux groupes aéronavals américains dévoilés dans la région, de quelques jours et pas d'un mois. Alors là, il faut qu'on m'explique, parce que Washington a dit que, et Israël ont dit que l'opération avait duré 4 semaines. Et ce militaire français nous dit que les deux flottes aéronavales n'ont une capacité de feu que de quelques jours. L'ensemble des frégates positionnées dans la région disposent de 150 à 200 missiles Tomahawk, dont 50 à 100 ont déjà été tirés. Alors, de 70-05 me dit, il y a le ravitaillement aussi. Ok, j'entends. Elles peuvent frapper à haute intensité pendant 3 à 5 jours, mais après, elles devront rentrer au port pour recharger leur stock. Et le président américain a déjà exclu d'envoyer des troupes au sol. Il n'y a même pas un bateau amphibie à proximité, avec 2000 marines à débarquer. Pour l'instant, il n'y a aucune troupe terrestre mobilisée. Trump n'aime pas la notion même de guerre. Il n'a pas la patience ni la conscience du long terme. Ses prises de parole ressemblent déjà à un discours de victoire, alors que celle-ci est encore loin d'être acquise. Bon, ça, on est habitué. Quel est le but de guerre de Trump ? Demande le Parisien au général français. Jusqu'à samedi soir, il ne le savait pas lui-même. Il a d'abord dit que l'Iran ne devait pas obtenir l'arme nucléaire. Ensuite, il a affirmé que son intention était de faire tomber Khamenei. Hein ? Ça, c'est fait. Les objectifs sont plus clairs du côté israélien. Netanyahu a vu dans l'affaiblissement du régime des Mollahs, amoindré militairement et isolé diplomatiquement, une opportunité à ne pas laisser passer. Merci Sochaga. Merci John Mako. Il s'est dit que c'était maintenant ou jamais et il est déterminé à obtenir un changement de régime. Question qu'elle est intéressante. Pourquoi la Russie et la Chine alliées de l'Iran sont-elles si discrètes ? C'est une question que vous m'avez posée hier soir. Pourquoi la Chine et la Russie ne sont pas aux côtés de l'Iran, alors ce sont des alliés. La Russie est un partenaire du régime des Mollahs, mais n'a aucun engagement de défense avec eux. Poutine n'a pas rechargé leur stock de missiles, ni remplacé leur défense solaire détruite après la guerre des 12 jours en juin. Il n'en a pas forcément les moyens, mais surtout, il préfère se faire oublier. Cette guerre focalise l'attention et les capacités américaines ailleurs qu'en Ukraine, où ils bombardent massivement dans l'indifférence du monde. Et puis les cours du pétrole vont remonter, ce qui va permettre à Moscou de mieux vendre son propre pétrole. Russie style, on vous aime bien, mais démerdez-vous. Ouais, c'est un peu ça. La démonstration de force américaine est-elle aussi adressée à la Chine ? Seulement si Trump obtient gain de cause. Il prend un énorme risque, nous dit le militaire français, parce que s'il arrête sa campagne sans avoir obtenu une victoire nette et indiscutable, les Chinois ne seront pas dupes. Ce qu'ils jouent là, c'est la crédibilité militaire de l'Amérique et par extension de l'Occident. Le plus gros risque, c'est donc le chaos, demande le Parisien. Oui, l'initiative de Trump et Netanyahou représente une opportunité unique de stabiliser le Moyen-Orient, mais ça n'est vraiment pas l'hypothèse la plus probable. La chute du régime des Mollahs peut engendrer une guerre civile en Iran. Je ne crois pas à une déflagration régionale, car les pays de la région, Irak et Syrie, ont déjà eu leur dose. Mais nous aurons à gérer une crise de plus sans qu'elle bouleverse la marche du monde. Le général français a été assez pessimiste sur la suite. Vous l'avez compris. Très intéressant. Et on est seulement le 2 mars, me dit Soupe en poudre. Oui, cette année 2026 démarre sur les chapeaux de roue. Ouais. Alors, en même temps, Guillemot me dit les généraux se préparent toujours au pire. Enfin, les amis, sur cette grosse séquence iranienne ce matin, mais attention, il y a de l'actu encore derrière, on va parler du nucléaire en France. On va parler des municipales, notamment à Montpellier. On va parler des municipales avec les candidats RN. On va parler aussi d'une histoire autour du rapporteur de la commission de l'Assemblée sur le duel public Charles Aloncle, dénoncé par Libération. Mais là, j'ai un dernier volet sur l'Iran qui est assez intéressant aussi. C'est « Et nous ?» Et nous, la France, dans cette histoire. Voilà. Est-ce que la France peut être rattrapée par ce conflit ? Comme ça, j'aurais eu le sentiment de vous faire une page assez complète. La France possiblement rattrapée par le conflit iranien, un papier dans La Croix, et après je vous montrerai celui-ci dans le Figaro. Alors que le Moyen-Orient s'embrase, la France redoute... Ah ! Ah, c'est pas mal ça. Je m'arrête. Il y a Mathieu qui gère la chaîne YouTube qui me dit « Sam, peut-être qu'on pourrait faire une capsule sur ce sujet pour YouTube. » Et tu as raison. Je pense qu'une capsule Iran, elle serait trop grosse. Mais je pense que je peux te faire une petite capsule peut-être effectivement sur... C'est une bonne idée. Ok, donc je vais faire un petit shout-out pour les amis de YouTube. Vous êtes prêts? 3, ne faites pas ça à la maison, c'est des cascades réservées aux professionnels. 3, 4. Amis de YouTube, bonjour, vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch. Et ce lundi matin, on a fait une grosse page consacrée à ce qui se passe en Iran. Et là, on voulait partager avec vous et les amis de Twitch un coup de projecteur sur la France dans ce conflit. Voilà. Et vous avez plein de gens dans le chat Twitch qui vous envoient des coucou YouTube. N'hésitez pas sur YouTube à dire coucou à nos amis de Twitch. Donc, est-ce que la France peut être possiblement rattrapée par le conflit iranien ? Alors que le Moyen-Orient s'embrase, la France redoute d'être affectée à son tour par l'onde de choc du conflit entre menaces ciblées sur son sol, ok, et dilemmes stratégiques à l'international, c'est assez intéressant, et puis on lira après un article sur les réactions de la classe politique française sur ce conflit. Dès le déclenchement des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, donc, on en parlait déjà hier soir, a demandé la mise en vigilance des forces de l'ordre en France pour détecter, je cite, « toute action susceptible de troubler l'ordre public sur le territoire français ». Le ministre a appelé au renforcement de la sécurité autour des représentations diplomatiques, dont des ambassades, et de certains points d'intérêt des parties impliquées. Quelles sont les menaces que fait peser ce conflit sur la sécurité en France. L'hypothèse que la France se fasse rattraper jusque sur son sol par le conflit en Iran est prise au sérieux par les autorités. Pour Loïc Kervranc, un député Horizon, le risque d'attentat de la part du régime iranien en France pourrait consister dans un premier temps à s'en prendre à l'opposition iranienne présente sur notre sol, notamment l'opposition, il y a différentes oppositions en Iran, mais en exil, hein. Vous avez bien compris, notamment constitué autour du fils du Shah, de l'ancien Shah d'Iran. Comme par exemple l'a montré en 2018 une tentative d'attentat visant un meeting organisé par l'opposition iranienne en France à Villepinte. Bon, ça remonte à 2018, mais il y a eu quelque chose. Un chercheur, Marc Ecker de l'IFRI, complète cette analyse. Selon lui, les menaces pèsent d'abord sur les intérêts, des intérêts bien identifiés, intérêts américains, intérêt israélien, donc au-delà de l'opposition iranienne. Et pour cause abonde un autre chercheur qui s'appelle Xavier Latour, l'Iran est un grand pays qui a des moyens significatifs en matière de renseignement, y compris sur le sol français. Voilà. Un territoire complique Loïc Kervranc où des agents du renseignement iranien pourraient s'arroger le droit de tuer. intérêt israélien, intérêt américain, représentant de l'opposition iranienne. On parle d'assassinat, on parle d'attentat sur notre sol, le sol français. Les experts s'accordent pour estimer que le risque est faible de voir la population française elle-même attaquée. Oui, oui, on a cette info au Marf de Chypre depuis un moment déjà. Merci beaucoup. Mais merci de me donner la source. Les experts s'accordent pour estimer que le risque est faible de voir la population française attaquée par des attentats aveugles. Mais, ce risque existe néanmoins. Les autorités sont forcément mobilisées pour prévenir toute menace terroriste d'origine étatique. Rappelons qu'il y a des précédents. L'attentat de la rue de Rennes, alors vous êtes trop jeune, mais 86. Point d'orgue à l'époque d'une campagne terroriste qui visait à faire cesser le soutien de la France à l'Irak. Il explique par ailleurs qu'historiquement, lorsque les conflits du Moyen-Orient ont débordé des frontières de cette région, les communautés juives ont pu être ciblées dans des attaques antisémites sous prétexte que les juifs de France soutiendraient Israël. Même si la France ne participe pas à ce stade à des opérations militaires, parce que la France aujourd'hui ne participe pas militairement à ces frappes, hein, il y a toujours des risques d'être touché par des actes terroristes, fait remarquer le chercheur Xavier Latour. Je lis l'article en diagonale, je vois ce que je pourrais vous lire de plus. Alors, est-ce qu'à un moment, l'armée française va mettre le doigt dans un engrenage militaire? C'est le passage qui arrive, là. La France pourrait-elle se faire rattraper à l'international, en particulier via l'accord militaire passé avec les Émirats arabes unis? Il s'agit d'un accord de coopération et non d'un accord de défense, souligne Michel Goya, qui est un ancien officier et historien de guerre. Paris n'est pas tenu de défendre les Émirats arabes unis s'ils sont attaqués, mais si les bases françaises sur place sont attaquées, il faudra bien faire quelque chose, dit-il. Alors que, vous savez que dimanche après-midi, une base navale française à Abu Dhabi a été touchée à la suite d'une attaque de drone iranien. D'après les infos qu'on lisait hier soir, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de blessés après cette attaque contre une base française d'Abu Dhabi. Ok. Je vous lis là-dessus et puis après on lit un article du Figaro sur les réactions de la classe politique française. Oui, pardon. Maïguina, s'il te plaît, Samuel, peux-tu éviter de taper sur le micro et sur la table? Oui, excuse-moi. Pardon, désolé. Oui, Chypre touché ce matin, ouais. Alors en fait, j'ai envie d'aller voir Chypre là, parce que vous êtes plusieurs à me dire tout à l'heure que la dernière info, c'est Chypre touché. Je vous avoue que je ne suis pas allé voir encore. Bon, je vous propose d'aller voir sur lemonde.fr, qui a un fil d'actualité. Les dernières infos, on continue sur lemonde.fr. Donc ça, c'est accessible à tout le monde, même si vous n'êtes pas abonné au Monde. Hein. Et comment ça, site inaccessible? Ah non, mais j'ai écrit ça n'importe comment. Voilà, et ça vous permet d'avoir les dernières infos. Donc ça, c'est un fait que je pouvais avoir quand vous cherchez une info un peu... Une dernière info, mais on va dire une info en continu. Vous pouvez aller sur les chaînes d'infos, mais vous pouvez aussi aller sur les sites des journaux français, Figaro, Libération, Le Parisien. Le Monde a un excellent fil d'infos aussi, voilà, que je vous montre. Voilà. Le Monde, on va faire le menu peut-être... Les lives en cours, voilà, très bien ça. Donc là, vous avez les dernières infos, vous voyez, sur toute l'actualité. Alors moi, ce qu'il me faudrait, c'est un live Iran. Voilà, hop. Voilà. Les bourses européennes chutent, les valeurs de la défense s'envolent, ok. Je cherche Chypre. Ah, ça, c'est les articles. Ah, pardon, c'est pas le fil. C'est pas le fil, ce sont les articles, c'est autre chose. Il faut que je trouve le filtre, le fil info. Bon, c'est quoi, je m'embête, on va taper Chypre. Hein. Tout simplement. Let's go. Je l'ai pas? Oh! Bon, alors on va faire à l'ancienne. On va taper Chypre en Google Actu. Let's go. Alors, quelles sont les sources? Qui m'écrit? Super. On a une source Figaro, on a une source France Info, on a une source BFM, source Ouest France. Ok. Là, on a un article daté d'il y a 2 heures. Un drone iranien s'est écrasé sur une base britannique à Chypre. Aucune victime. Signalé par l'armée britannique. Donc un drone iranien s'est écrasé sur une base britannique à Chypre la nuit dernière. Hein. Annonce du président chypriote. Ok. Aucune victime signalée dans l'immédiat. Cette base donc britannique à Chypre est la plus importante base militaire du Royaume-Uni dans la région. Londres y a récemment déployé des moyens supplémentaires. Le Royaume-Uni a accepté que les États-Unis utilisent des bases militaires britanniques pour frapper les sites de missiles iraniens. Londres ne participera pas toutefois à des actions offensives en Iran. Donc la Grande-Bretagne prête ses bases, mais ne frappe pas elle-même. Ok, très bien. Merci de m'avoir alerté sur cette actu. Je reviens aux journaux. Pour finir sur la France, regardez. Avec cet article qui me semble important, la réaction de la classe politique française. La classe politique française entre condamnation et réalisme prudent. Lisons. Avant que la mort du guide suprême iranien ne soit officialisée samedi soir, le président Macron s'était contenté de condamner une escalade en cours dangereuse pour tous. Qui devait selon lui cesser, et de sommer Téhéran de négocier de bonne foi pour mettre un terme à son programme nucléaire. Prudence qui a pu s'apparenter à un vœu d'impuissance, qui a rectifié dès le lendemain la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon qui a déclaré « La France ne peut que se satisfaire de la mort d'un dictateur sanguinaire qui a opprimé son peuple, avili les femmes, les jeunes, les minorités, et qui est tenu responsable de la mort de milliers de civils dans son pays ». Pour le reste, la classe politique se révèle profondément fracturée. De toute façon, il y a une telle polarisation de la classe politique aujourd'hui en France. Le contraire serait étonnant. D'un côté, les tenants inflexibles du respect du droit international, majoritairement situés à gauche, notamment au sein de l'EFI, qui dénoncent avec fermeté l'attaque américaine. De l'autre, des responsables plus pragmatiques se réjouissent de la chute d'un dictateur, non sans appeler à la prudence. Jean-Luc Mélenchon s'est indigné, lui, de la négation de tout droit international des États-Unis et d'Israël, dont les dirigeants seraient animés par une volonté suprémaciste, ce sont ses mots. Mélenchon, qui qualifie Ali Khamenei de bourreau du peuple iranien, mais qui estime que sa mort ne justifie pas les moyens qui l'ont provoqué. Voilà. Maintenant que les principaux dirigeants iraniens ont été tués, un cessez-le-feu doit s'imposer, estime Jean-Luc Mélenchon. Égérie de la cause palestinienne, l'eurodéputé LFI Rima Hassan a pour sa part jugé que l'Iran avait le droit de se défendre et qu'Israël avait le droit de la fermer, allant jusqu'à mettre en bannière de son compte X un drapeau américain en flammes. Du côté des écologistes, Marine Tondelier a soufflé le chaud et le froid, tout en espérant que la libération du peuple iranien, elle aurait préféré qu'Ali Khamenei soit jugé plutôt que tué. Avec le droit international comme seule boussole, l'élu des Hauts-de-France étrit ainsi la manière inacceptable avec laquelle les États-Unis sont intervenus. Méthode qu'elle assimile à celle du président russe Vladimir Poutine en Ukraine. D'autres, au contraire, se sont ouvertement réjouis du sort réservé au guide suprême iranien. Fidèle à une ligne réaliste déjà assumée lors de l'opération militaire à Caracas, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal ne condamne pas l'intervention. Parce que je considère que le droit international ne peut pas être un bouclier pour ceux qui le bafouent matin, midi et soir, a-t-il déclaré. Ce que je crois, dit Attal, c'est qu'il faut que cette opération soit utile, qu'elle permette de désarmer définitivement les gardiens de la révolution et de rendre au peuple iranien sa liberté, se justifie le chef des députés Renaissance. Même satisfaction chez Jordan Bardella, président du RN, convaincu que le régime iranien est considérablement affaibli par l'élimination de Khamenei et que ses structures sécuritaires sont lourdement touchées, le président du RN a défendu l'idée d'un changement de régime légitime et durable, à condition qu'il résulte d'un soulèvement du peuple iranien. C'est peu ou prou, explique le Figaro, ce que dit également Bruno Retailleau, côté droite, côté LR. Entre ces deux visions, donc condamnation des frappes israélo-américaines ceux qui se félicitent de la mort de Khamenei, certains responsables politiques se sont livrés à un équilibre, un exercice d'équilibriste. Olivier Faure, par exemple, premier secrétaire du PS, qui refuse de pleurer sur le bourreau du peuple iranien, mais plaide dans le même temps pour que le processus de transition soit placé sous l'égide des Nations Unies afin d'éviter que le chaos ne succède à la tyrannie. C'est aussi le positionnement d'Éric Zemmour, nostalgique d'un Iran libre et francophile incarné par le Shah. Le président de Reconquête se réjouit de la chute d'un symbole d'une tyrannie islamique. Sa disparition laisse néanmoins pour Zemmour beaucoup d'incertitudes. Parmi les gaullistes, on se méfie depuis toujours de ces interventions militaires qui veulent imposer la démocratie par la force et qui ont toujours mal fini. Irak, Afghanistan, Libye. C'est donc au courageux peuple iranien de renverser cet tyran. Okay. Salamèche s'interroge, Zemmour est gaulliste maintenant. Bah, c'est ce qu'il dit, quoi. Donc, ce serait intéressant de pouvoir poser la question au général de Gaulle, mais hélas, vous savez que ça va être compliqué. L'avantage avec les morts, c'est qu'ils ne peuvent pas parler. Je vous lis, et on passe à l'actualité en France après, justement. Et on va parler de politique, on va parler des municipales. Et on se fera un petit café aussi. Vous savez, on parle du danger de... qui est brandi par Israël et les États-Unis depuis des années, que le régime iranien puisse se doter de l'arme atomique. Et il y a Prince qui a écrit « Regardez comme l'Iran tire à l'aveugle sur tous ses voisins actuellement et revenez me dire qu'on aurait dû les laisser développer l'arme nucléaire. » Merci Héphaïstos. Merci Icoralb. Bon, voici pour cette page Iran. On a passé 1h20, 1h10 sur l'Iran ce matin. On y reviendra bien sûr demain matin, à moins que ce soir, il y ait tellement d'infos que je vous fasse à nouveau une petite spéciale. Sinon, on fera un petit live de gaming. Voilà, on va passer à l'actualité en France. Après, notamment la nouvelle doctrine nucléaire, pas civile, hein, militaire, en France, avec un discours de Macron aujourd'hui. Peut-être qu'il a eu lieu déjà à l'heure où on parle, 11h24. Je vais juste me chercher un petit café. J'en ai pour 30 secondes. Est-ce que je vous mets quelque chose ou pas? Vous prenez un truc? Café? C'est cet après-midi le discours? Ok, le discours est à 15h. Un latte? Un latte? Un flan? Un petit flan? Une pâche de nata? Un sirop de citron? Un thé vermont? Un mojito? Une tisane? Un allongé? Juste un doigt? Ok. Tu préfères pas un café avant? Ok, j'y vais, j'arrive. J'en ai pour 10 secondes. Normalement, vous auriez tous dû avoir reçu votre commande. Normalement, à l'heure où on parle, vous devriez avoir reçu votre commande de café, d'autres. Non ? Ah, fut donc tu l'as eu ? Ok, c'est bon, merci, nickel. Ah, certains n'ont pas reçu. Ah, ouais, la plupart du retard à la table 5 ? Le latte délicieux ? Ok, je vois que certains ont reçu, d'autres pas. Alors, c'est un service que nous avons mis en place récemment. Donc, il y a encore des petits ratés. Je travaille dessus avec mon équipe. Un peu froid, un peu réchauffé. C'est donc ça le bruit dans ma cheminée ? Oui, parce que c'est livraison par drone. Ok, il y a une erreur sur ma commande. Il y a un ticket réclamation que tu peux ouvrir si tu veux. Ok. Je n'ai reçu que le doigt, malheureusement. Ok, merci beaucoup. C'est un nouveau service qu'on a mis en place sur cette chaîne. Vous êtes géniaux. Attendez, j'envoie juste un petit pouce pour dire à... Voilà, hop, c'est parti. Alors, restez avec nous parce qu'on a parlé de l'Iran, mais il y a vraiment des choses très intéressantes, vraiment très intéressantes qui arrivent. On va commencer par cette hypothétique nouvelle doctrine nucléaire militaire en France avec un discours du président Macron. La commune me disait, a priori, cet après-midi, hop, je passe à... Ah bah j'y suis déjà, hop, non, voilà. Avec cette question, est-ce que la France va proposer un parapluie nucléaire à l'Europe ? Emmanuel Macron doit prononcer un discours sur la dissuasion nucléaire ce lundi, donc ce lundi après-midi, sur la base sous-marine de Lille-Longue, près de Brest, dans le Finistère. J'ai reçu le café, mais pas l'argent public. Ah, ça, c'est normal, parce que ça, c'est moi qui l'ai gardé.
Eh oui, ça m'a été, il a pris de l'argent.
Lille-Longue, donc les Bretons connaissent, ce bout de terre de la presqu'île de Crozon, Crozon, c'est magnifique, face à Brest, abrite l'un des sites les plus secrets de l'armée française, les bases où sont stationnés les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, alors stationnés quand ils ne sont pas en mission et en plongée bien sûr, hein, qui assurent une présence permanente à la mer de la dissuasion nucléaire. C'est devant l'un de ces 4 navires réputés indétectables, synonyme de puissance, que le président de la République a choisi de mettre en scène lundi, donc cet après-midi, son discours sur la doctrine de dissuasion de la France, l'un des 2 pays dotés de l'arme nucléaire en Europe avec le Royaume-Uni. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron pourrait annoncer cet après-midi, et on y reviendra demain matin, des évolutions notables sur sa doctrine de dissuasion nucléaire. Dans une allocution sur la guerre en Irak et l'Europe de défense, en mars dernier, de 2025, hein, pardon, il y a un an, parce qu'on est en mars, le chef de l'État avait décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Il devrait donc dire si la France, étant son parapluie de protection, envisage des opérations spéciales, des exercices communs avec certains pays, voire prévoit de déployer des avions français équipés de l'arme suprême dans d'autres pays du continent, comme le font déjà les États-Unis. Cette possibilité d'élargissement de la dissuasion agite les responsables politiques. Qu'en pense la classe politique ? C'est intéressant. La chef des députés RN, Marine Le Pen, avait jugé l'an dernier, par exemple, que la France ne doit pas partager cette dissuasion nucléaire. Et encore moins la déléguer. C'est pourquoi Emmanuel Macron devrait répéter que la décision finale reviendra toujours au président de la République, chef des armées, mais aussi que la France ne paiera pas pour la sécurité des autres et que ce déploiement potentiel ne viendra pas en soustraction de ce dont on a besoin pour nous. Du coup, c'est les autres pays européens qui vont payer ? La prise de parole d'Emmanuel Macron répond à un exercice imposé à chaque président une fois par mandat. Hein, c'est le discours sur la dissuasion nucléaire. En 59, Charles de Gaulle avait formalisé la doctrine nucléaire française, dont la volonté est strictement défensive. Son rôle est de prémunir la France de toute agression ou menace d'agression d'origine étatique contre les intérêts vitaux de la nation, où qu'elle vienne et quelle qu'en soit la forme. La doctrine assume toutefois une ambiguïté sur le périmètre des intérêts vitaux et donc sur les circonstances dans lesquelles la France pourra avoir recours à l'arme nucléaire. Depuis les années 60, avec les propos de Gaulle, la dimension européenne de cette dissuasion a été affirmée, elle a été constamment réaffirmée par tous mes prédécesseurs, comme j'ai pu le faire moi-même, a dit Macron l'an dernier. Ce qui voudrait dire que dans la prise de décision de ce qu'ont sont les intérêts vitaux de la France, la nouveauté, c'est que les intérêts de nos principaux partenaires européens seraient désormais intégrés. Okay. cette mise à jour du logiciel. Cet après-midi, ça parlera aussi des moyens. Hein. Parce qu'une dissuasion nucléaire, ça s'entretient. Il faut des investissements, il faut des nouveaux appareils, de nouveaux avions, de nouveaux missiles balistiques pour les porter, des nouveaux sous-marins, lanceurs d'engins, dont tout ça va être évoqué cet après-midi, bien sûr. Mais il y a surtout la redéfinition donc, de savoir si on intègre ou pas nos amis européens dedans. Cette mise à jour du logiciel est motivée par la mutation du contexte stratégique, principalement du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Craignant désormais une agression russe, les pays européens de l'OTAN ont été contraints de procéder à une hausse considérable de leur budget de défense et d'explorer leurs options en matière nucléaire. C'est un truc qu'on n'évoque pas assez, pas souvent d'ailleurs. C'est que l'une des conséquences de la tentative d'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, c'est que ça a obligé quand même tous les pays européens à flécher une part plus importante de leur budget vers les questions de défense, parce que soudain, il y a une nouvelle menace qui apparaît. Et cet argent qui est fléché vers la défense, il n'est pas fléché vers d'autres ministères. Éducation, sécurité intérieure, soutien à l'activité économique du pays. Merci Poutine. Hôpitaux. C'est aussi une demande américaine, c'est vrai, c'est aussi, ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est aussi la demande américaine depuis longtemps que les Européens investissent davantage dans leur défense. C'est vrai, c'est vrai. En ce domaine, la protection est d'abord américaine, hein, en matière de protection européenne. Le parapluie nucléaire des États-Unis est censé couvrir les pays membres de l'OTAN. Un engagement concrétisé par le déploiement d'environ une centaine. Oh merde, j'ai pas la suite. Il faut que je retouche dans la croix. J'ai pas vu la page 9. De têtes nucléaires américaines en Europe. Merci Magic Box. Merci White FG. Merci. Inquiète de l'agressivité russe, la Pologne a fait savoir son intérêt pour le déploiement d'armes nucléaires américaines sur son territoire. Mais les États-Unis demeurent réticents. Toutefois, les tensions entre l'Europe et Washington sous Trump ont fragilisé la conviction selon laquelle les États-Unis demeurent un garant de la sécurité européenne. Les États-Unis de Trump sont-ils encore un allié, hein? Vous connaissez la question. Incitant les pays européens à envisager d'autres pistes. Celle de se doter eux-mêmes de la bombe, idée caressée notamment par certains responsables polonais, est peu vraisemblable. Reste le parapluie français, évoqué en mars 2025 par Emmanuel Macron. Et du coup, tout devient cohérent et logique, parce que regardez, d'où part le Macron cet après-midi? Où va-t-il prononcer son discours? De l'île Longue. L'île Longue, c'est où? C'est dans le Finistère. L'île Finistère, c'est où? C'est en Bretagne. Et là, on parle de parapluie français. Bretagne, parapluie. Pluie, eh oui. Ok, tout est cohérent. D'accord. Tout est bien. Tout est bien en place. Pardon les Bretons, j'ai le droit, hein, j'ai l'impunité puisque je suis moi-même Breton. Donc j'ai le droit. Reste le parapluie français évoqué en mars 2025 par Macron. Français ou franco-britannique, puisque Paris et Londres ont fait savoir en juillet dernier que leurs forces nucléaires indépendantes pouvaient être coordonnées. C'est donc ça être communicant pro? Oui et non, parce que les vraies bonnes formations de communicant pro sont surtout dispensées depuis Chypre, actuellement. Donc je ne dirais pas que c'est ici qu'on prendra les meilleures leçons. Par contre, elles sont payantes, à Chypre. Berlin a confirmé le 13 février l'existence de discussions confidentielles avec Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire européenne. La Pologne a aussi manifesté son intérêt pour une discussion avec la France en la matière, de même que la Suède, le Danemark et les Pays-Bas. Il n'est pas question pour autant de remplacer le parapluie américain, ses alliés ne le désirent pas, la France n'en a pas les moyens. On se dirige sans doute vers un emploi de l'arme nucléaire... Ah non, je me disais, il y a un truc qui ne va pas dans le chat, dans le texte. Vous avez très bien vous. On ne se dirige sans doute pas, il manquait le pas, vers un emploi de l'arme nucléaire en cas d'invasion de l'Estonie, explique un chercheur français. Il s'agirait plutôt de définir nos intérêts de façon plus large, plus explicite, en disant par exemple que la sécurité de l'Allemagne ou de certains sites stratégiques hors de France touche à nos intérêts vitaux. Même si la garantie américaine doit devenir plus incertaine, il faut peut-être se préparer à un changement de logique. À défaut de pouvoir compter sur les armes nucléaires et les troupes américaines présentes en Europe, c'est aux forces conventionnelles européennes qu'il reviendrait de dissuader une incursion adverse. Le but de la dissuasion nucléaire ne serait alors plus de rendre impossible toute attaque, mais d'empêcher l'escalade du conflit. Dans ce cas, cette phrase semble anodine, mais elle est très importante. Dans ce cas, il faut que l'on commence très rapidement à se poser la question du renforcement de nos forces conventionnelles. Encore des sous, encore de l'argent, encore du budget pour la défense. Et c'est un argent qui ira pas ailleurs. Merci Elisic, c'est très intéressant ce que tu dis. Merci beaucoup. La liberté, ça coûte cher, Samuel dit Lion Doré, c'est pas faux. Mais s'il n'y avait pas toutes ces menaces, cet argent pourrait être utilisé autrement, quoi. Mais je le concède, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Ganguy dit ça fait aussi tourner une industrie. C'est pas faux. C'est pas faux. Allez, un peu de municipal, parce qu'on ça se rapproche quand même, hein. Ça se rapproche. Alors on va aller à Montpellier, capitale du stream français, Montpellier. Tout le monde sait que le vrai maire de Montpellier, c'est Monsieur Zerator. Hein. Mais bon, faisons mine de croire que les vrais maîtres du pouvoir à Montpellier ne sont pas les streamers, Zeradash et Tutti Quanti. Allez, faisons plaisir aux politiques et laissons-les croire que la réalité du pouvoir est aux mains des politiques. Alors que tout le monde sait que les patrons à Montpellier, ce sont les streamers. Zera te répondrait que c'est Dash. J'adore. J'aime beaucoup Dash. Alors, on va à Montpellier. On va parler du maire socialiste sortant, Michael Delafosse, qui est en tête dans les sondages. On va parler de l'opposition LFI qui aimerait bien prendre la mairie. Et qui a des intentions de vote qui sont pas ridicules. Et on va parler de Rémi Gaillard, l'humoriste, qui pourrait se maintenir au second tour parce qu'il aurait assez de voix. Let's go. À Montpellier, LFI veut déloger le maire socialiste, Michael Delafosse. Pierrot, tu régales. Tu es sûr de tous les combats. Pierrot, notre nouvel ami ce matin, là, il est de tous les combats. Il a un avis sur tout. Il a un avis définitif sur tout. C'est moi, ça me fascine. Pierrot, tu me fascines. Je me régale. Je trouve que la moitié du content ce matin, c'est toi. Tu as vraiment un avis sur tout, quoi. Je pense que je te pose une question de physique nucléaire ou de, je sais pas moi, un sujet vraiment, ou de des meilleurs moyens de lutter contre un certain type de cancer agressif. Je suis sûr que tu auras une réponse définitive. Je suis sûr que tu auras un avis. Et ça me fascine, ça me fascine. Hein. Physique quantique, je pense que Pierrot, il sait. Ça me fascine. J'adore les gens qui ont des convictions comme ça sur tout. Donc lisons l'article maintenant. Ciblé par tous ses opposants, le maire sortant de Montpellier, le socialiste Michael Delafosse, fait la course en tête dans les sondages. Son adversaire Nathalie Auziol, donc LFI, peut toutefois compter sur un socle électoral très puissant dans la ville. Vous allez voir l'article de La Croix. Est vraiment intéressant. Mettons le VIP. Non, pas trop, on va pas déconner quand même. Non, on est pour le content, mais on... Non, faut pas déconner. Nathalie Auziol peine à reprendre son souffle. Députée insoumise, candidate mélenchoniste à la mairie de Montpellier, vient de monter à toute vitesse les 5 étages de cette résidence du quartier Gambetta. Bravo déjà, parce que monter 5 étages à pied vite fait, en vrai, ça tue, quoi. Ce vendredi soir, alors que les habitants de Montpellier rentrent petit à petit chez eux, après leur journée de travail, cette professeure agrégée d'anglais, donc la candidate et les fils, s'est lancée avec des militants dans une session porte-à-porte, un classique, pour distribuer des tracts à ses électeurs. Les unes après les autres, les portes de cet immeuble Montpellier-Rhin s'ouvrent. Les habitants prennent volontiers quelques minutes pour parler politique avec les députés insoumises. La plupart du temps, l'accueil est enthousiaste. Hein ? Je me sens très proche de LFI, le féminisme, l'écologie, la pauvreté, ça me parle beaucoup. Lance par exemple cette jeune femme qui travaille dans le milieu du théâtre. Sa voisine d'en dessous n'en pense pas moins. Vous pensez que le maire a une chance d'être réélu ? En tout cas, moi j'espère que vous gagnerez. Ouais, il y a des gens qui sont tout à fait OK avec cette candidature LFI. Ou encore cette autre habitante dans un immeuble un peu plus loin, c'est génial, vous aurez ma voix, l'insoumise est ravie. D'autant que manifestement, il y a un journaliste du Figaro qui est en train de la suivre. Dans ce quartier populaire, on voit de gentrification, de boboisation, comme on dit parfois. Situé dans le centre historique de la ville, les insoumis sont comme chez eux. En 2022, au premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête sur toute la commune de Montpellier, avec 40% des voix, loin devant Macron, 22%. Pour les européennes en 2024, la liste LFI de Manon Aubry est arrivée en tête, 24%. Et Nathalie Auziol a été facilement réélue dès le premier tour lors des législatives anticipées qui ont suivi la dissolution avec plus de 58% des voix. LFI est en tête de toutes les élections depuis 2022. Aujourd'hui, dit la candidate, je suis la mieux placée pour battre Michaël Delafosse. Notre liste est nouvelle sur la scène politique. Je sens une vraie volonté des habitants de rompre avec le système PS, blablabla, blablabla. Bon, c'est des éléments de langage politique habituels. Montpellier a été coché il y a longtemps par l'état-major LFI comme étant la ville parmi les plus peuplées de France et ayant le plus de chances de basculer dans le giron insoumis. Voilà. Parce que normalement, il devrait y avoir assez peu de villes qui basculent côté LFI, mais Montpellier, rêve LFI, pourrait être l'une de ces villes. Raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon s'est déplacé en personne d'ailleurs mi-février pour un meeting de soutien à Nathalie Auziol. Ce vendredi, dans ce quartier de Montpellier, le porte-à-porte n'est d'ailleurs pas entièrement concluant pour l'élu mélenchoniste. Elle frappe à des portes, il y a des gens qui l'adorent, il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de voter pour elle, hein, c'est normal. L'accueil est parfois plus réservé, comme lorsque cette souverainiste, qui a pourtant voté LFI lors de toutes les dernières élections, lui avoue qu'elle estime que la mort du petit Quentin n'a pas été bien gérée par les insoumis. Vous avez un truc à faire, il va falloir jouer plus fin. Vous êtes très agressif dans votre façon de défendre vos idées. Raphaël Arnaud aurait dû être écarté de votre groupe, lance-t-elle à la députée. La violence, ce ne sont pas nos méthodes. Vous nous avez entendu le dire, répond Madame Auziol. Pas assez, répond l'électrice. Raphaël Arnaud ne devrait pas être à LFI. Ça ne me plaît pas, ce n'est pas un bon rempart que d'opposer une violence à une autre violence, dit-elle. Un peu plus tôt dans la journée, c'est justement dans ce même quartier de Montpellier que Michaël Delafosse, donc le maire socialiste, s'est établi pour déjeuner. Voilà. Très implanté localement, celui qui est désormais devenu une figure nationale de la gauche sait que les insoumis vont tout faire pour tenter de le faire tomber. Il n'aime pas ce que je représente, notamment les convictions qui sont les miennes, très fermes sur la laïcité, sur la sécurité. Pourtant, ce sont les combats que je mène grâce à Jean-Luc Mélenchon qui avait exactement la même ligne quand il était ministre de l'Enseignement supérieur. Je le connaissais très bien, je l'appréciais beaucoup, jusqu'à son évolution, explique M. Delafosse. Alors, que disent les sondages ? Que disent les sondages ? Élise Auron nous dit « J'ai déjà vu Michaël Delafosse à vélo ». Merci Élise Auron pour ce témoignage. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Quel type de vélo ? De course ? Plutôt VTT ? Plutôt balade ? Électrique, propulsion classique, est-ce qu'il y avait une côte, vent dans le dos, descente, est-ce que le maire était protégé, est-ce qu'il avait un casque, est-ce qu'il respecte le code de la route, est-ce qu'il grille les feux, voilà. On attend les infos, on est priorité à l'actu ici, hein. On est sur le fond, c'est mignon en vrai. Alors les sondages, malgré la très forte implantation insoumise dans la ville, les enquêtes d'opinion donnent le maire sortant largement favori du scrutin. Le dernier sondage IFOP pour le Midi Libre le place en tête au premier tour, 35% des intentions de vote. Nathalie Auziol, LFI, est à 16%, donc c'est assez loin. Hein. L'humoriste Rémi Gaillard est à 10%, donc 10% c'est la barre à partir de laquelle un candidat peut se maintenir au second tour. Donc Rémi Gaillard, on va en parler dans un instant. J'ai un papier sur lui, pourrait rester au deuxième tour. Derrière, vous avez le maire, l'ancien maire d'Hiver Gauche, Philippe Sorel, l'entrepreneur, le chef d'entreprise Moed Altrad. C'est Moed ou c'est Mohamed Altrad? C'est Moed? Altrad. Ça, ah, c'est Moed. D'accord, c'est Moed. Ah, j'avais jamais fait attention. Ah oui, Moed, ok. Merci beaucoup. Moed. Merci Inside Oak. Merci Magic Box. Merci pour les soutiens. Ok. Devant la candidate URN, France, jamais 8%. Ils font pas beaucoup le RN à Montpellier, pourquoi? 8% seulement? Les gens qui connaissent Montpellier ou pas? Pourquoi le RN est à 8%? Pourquoi le RN est aussi bas à Montpellier? Il y a des Montpelliérains là ou Montpelliéraines? 8%? C'est une ville. Alors je lis, c'est une ville de gauche, c'est une ville étudiante, c'est une ville jeune. C'est une ville étudiante historiquement de gauche. Énormément d'étudiants. C'est assez populaire Montpellier aussi. Ok. Ville jeune, dynamique, étudiante. Historiquement de gauche. Ok, d'accord. C'est pas mal 8%, me dit Ronan. Enfin, c'est très loin des ambitions électorales de ce parti, quand même. Un petit propos raciste, Salazar 23. Tiens. Intéressant. Un petit propos discriminant qui fait plaisir. Ok. Donc, 8%. Pour LFI, la campagne va devenir beaucoup plus difficile qu'il ne le pense. Jean-Luc Mélenchon a franchi un cap. Il y a une radicalisation de la population contre LFI. Raconte de la fausse. Alors, pour être réélu, le socialiste, lui, mise sur son bilan. Tu veux jouer au malin, Salazar? Allez, historique. C'était super bizarre ton commentaire, comme t'es d'accord. T'es montpelliérain? Qu'est pas ça? On continue. Donc, le maire de la fosse mise sur son bilan. Il le juge positif. T'imagines, un maire sortant dirait « Non, ouais, mon bilan est pas fou, quoi. » C'est pas fou, quoi. Et le martèle à la longueur de réunion publique. D'abord, la gratuité des transports en commun, tramway, bus, pour les habitants de la métropole Montpellier-Rennes. L'ouverture d'une cinquième ligne de tram dans la ville. Ils ont cinq lignes de tram, Montpellier? Ok. Notre stratégie pour embellir le centre-ville a été payante. Nous avons été efficaces sur la question de sécurité. Nous avons misé énormément sur le développement économique de la ville. Montpellier-Rennes, c'est vrai, ça? C'est vrai ou pas? C'était important avec toute l'inertie qu'ont connue les Montpelliérains sous le mandat précédent. Je vous vois débattre. Donc l'ancien maire, justement, lui, n'est pas du tout d'accord. La population a été brutalisée sans consentement ni concertation, notamment sur le plan de la circulation, où de très nombreuses routes ont été fermées. La dette de la ville a explosé. L'insécurité a augmenté, dit au contraire Sorel. Des attaques qui reviennent de la part de tous les adversaires de Michael Delafosse. Georges Frêche avait surnommé Montpellier la surdouée, aujourd'hui serait plutôt la cancre. Nantes, Rennes, Strasbourg, notre commune a le plus mauvais ratio par rapport aux autres de taille équivalente. Ratio quoi, d'endettement peut-être? Pierrot, tu régales. Pierrot, c'est notre maître en content ce matin. Pierrot 2021, je vous laisse vous régaler avec les commentaires. Il n'y a pas de création de richesse, le taux de précarité est très important, les charges, les impôts ont augmenté, et la dette aussi. On dit Moed Altrad, l'entrepreneur, qui était déjà candidat en 2020 et était arrivé au deuxième tour. Voilà, et Michael Delafosse répond, mais quel est leur projet pour la ville? Altrad n'a pas assisté à un conseil municipal en 6 ans, et serait seulement de manière très épisodique. Dans cette campagne, je ne parle que de projet, mes adversaires ne répondent qu'une seule chose, ils sont contre. Ok. Ok, bon, on va voir. Bon, les sondages semblent dire que M. Delafosse pourra être réélu. Rémi Gaillard. Razoufou pose la question, mais il s'affiche de quel bord politique, Rémi Gaillard? Bah, on a un petit éclairage en bas, regardez. Moi, je ne le sais pas. Je vais lire ce papier avec vous pour voir un petit peu quel est son projet, sa proposition, sa ligne politique, à supposer qu'il ait une étiquette. Romano me dit qu'il est sans étiquette. L'humoriste Rémi Gaillard, possible invité surprise du second tour, c'est-à-dire au-delà de 10% des voix au premier. Tant qu'à voter pour un clown, autant que ce soit pour moi, Rémi Gaillard a le sourire amusé de celui qui se prépare à jouer un mauvais tour. À 51 ans, l'humoriste s'est lancé un nouveau défi. Il ne s'agit pas de viser une poubelle avec un ballon de foot, ni de faire la course avec un tramway ou d'organiser un Mario Kart géant dans les rues de Montpellier. Cette fois, il s'est fixé comme objectif de devenir le prochain maire de la ville. Et ça n'est même pas une blague. Je vois des Rémi Gaillard, le GOAT, dans le chat. Ce fervent militant de la cause animale, certains en parlaient tout à l'heure, connu nationalement pour ses très nombreuses impostures vidéo au début des années 2000, n'en est pas à son coup d'essai. En 2020, en pleine pandémie de Covid, le vidéaste s'était déjà lancé dans la bataille municipale, récoltant 9,58% des suffrages. J'étais à 212 voix de la qualification pour le premier tour. Merci, Mamie Zestouille, pour ton message. Je crois qu'à l'époque, les gens ne m'ont pas pris au sérieux. Cette fois, c'est différent. Je sens une dynamique depuis le débat du Midi Libre. Veut-il croire? Parce qu'il y a eu un débat où il a été assez en verve, notamment contre le maire sortant. Les extraits de cette confrontation entre les 12 candidats font effectivement fureur sur les réseaux sociaux. On y voit le comique taper à bras raccourcis sur le maire socialiste, M. Delafosse, l'attaquant à la fois sur sa gestion de la ville, les menaces qu'auraient proférées certains de ses proches, ou sa prétendue proximité avec l'ancien ministre Jack Lang. On le voit également attaquer une presse locale aux ordres. Attablé dans une brasserie, place de la Comédie, Rémi Gaillard revient sur la violence de sa charge, envers le maire sortant notamment, et il explique « Si je n'avais pas participé au débat, on m'aurait dit que je me défilais. Alors je me suis dit que tant qu'y aller, je devais cogner. Hein? Delafosse est le pire maire que nous ayons à Montpellier, il faut le dégager, torpille-t-il. Des attaques qu'il estime justifiées, au vu des nombreux griefs qu'il fait au maire socialiste. C'est quelqu'un qui fait de l'écologie punitive, qui empêche les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture hors de prix d'entrer à Montpellier. Il ne respecte pas la démocratie en oubliant les électeurs qui n'ont pas voté pour lui et en façonnant une ville à son image uniquement pour les vélos. Il dilapide l'argent public. »
Mais fais un tweet si tu veux, ça t'amuse.
Non, c'était pas ça. C'était pas ça.
Et oui, ça méritait, il a pris de l'argent.
Il dilapide l'argent public pour acheter des troènes du Japon, hein, ce sont des arbres, et les mettre sur la place de la Comédie. Moi, quand je me déguise en escargot et que je me mets au milieu de la route pour créer des embouteillages, ça dure 3 minutes et c'est rigolo. Lui, ça fait 6 ans qu'il bloque la circulation. Rémi Gaillard est le symbole d'une violence politique totalement décomplexée. Alors attends, il me manque un petit bout là. Il faut que je retourne dans le Figaro, page 10. Ok, en bas. Alors qui dit ça? Ah, c'est le maire qui répond. Rémi Gaillard est le symbole d'une violence politique totalement décomplexé, c'est un populiste très dangereux, une sorte de BP Griot Montpellierin. Je ne sais pas qui il fait encore rire. Ben, le maire, il rigole pas du tout, lui. Il n'est pas inintéressant, mais c'est un électron libre, il est difficile à gérer, juge l'entrepreneur Moed Altrad, qui avait reçu d'ailleurs le soutien de l'humoriste au deuxième tour, aux dernières municipales. Sa liste, Rémi Gaillard l'a voulu éclectique, entièrement issue de la société civile. J'ai un infirmier de nuit, un mec qui vend des burgers, une chauffeuse de bus, un mécanicien, une coiffeuse, un punk. J'adorerais que ces gens soient élus. Ils sont le peuple, ils en ont marre, ils ont envie de le foutre au cul de tous les politiques. Argumente celui qui se dit ni de droite ni de gauche, mais qui veut bien qu'on le considère comme populiste, puisque le populisme, c'est ériger le peuple contre les élites. Acro-Kaiser nous fait un rappel, et tu as raison, sans étiquette ça ne veut pas dire neutre. Neutre, ça n'existe pas. Sans étiquette, ça veut dire sans étiquette affichée, mais la neutralité, ça n'a aucun sens, bien sûr. Sa campagne, Rémi Gaillard l'amène avec 0 euros, pas de réunion publique, pas de tract, zéro déchet, un programme disponible en ligne, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Je navigue à vue, je n'avais pas vraiment prévu d'y aller, mais comme les autres ne voulaient pas s'entendre pour battre de la fauche, j'y suis allé. Et je terminerai devant eux, jure-t-il. Son affiche, un visage de clown, le sien, écrasé par une tarte à la crème avec un slogan « Yes, we clown ». Ok. À vous. 0 euros, je doute fort, me dit MMG. Bon, il y a forcément un petit peu de dépenses de campagne, ouais. Je vous lis, hein. Mathieu me dit, il a dit qu'il a vu 15 euros de dépenses de campagne. Il propose quoi concrètement du coup? L'article n'en parle pas. Manifestement, de revenir un petit peu sur la politique vélo, si je comprends bien. L'article n'en parle pas. Vous voulez qu'on essaie de trouver le programme de Rémi Gaillard? Tuvote.fr, Rémi Gaillard, Montpellier, 4 propositions analysées. J'ai un truc là. Le programme. Yes, we clown 2026, le programme, bah c'est ça. Bah c'est son site, c'est son site. Voilà. Allons à la source, toujours la source, comme ça on a la source. Yes, we clown. Ok. Ok, j'accepte. Ah, il y a un fil info. Il y a un fil info. Bon, la dernière info, c'est de juillet 2024, mais il y a un fil info, quoi. Ok. Ouais, bah, il est pas actualisé. Il est pas très à jour. En même temps, 15 euros de budget de campagne, hein, on nous a dit, donc c'est normal. Mon projet pour 2026 tient en une idée simple. Transformer l'existant plutôt que construire toujours plus. Et rendre la transition écologique visible, immédiate et utile dans la vie quotidienne. Rendre l'eau et la fraîcheur à la ville. Fluidifier la circulation par l'intelligence. Construire des logements bioclimatiques. Faire de la culture une expérience permanente. Protéger sans brutaliser. Apprendre à ne plus jeter plutôt qu'à brûler. Mais au-delà des projets, une méthode de la transparence totale. Donc là, il veut mettre de l'IA pour fluidifier la circulation à Montpellier, là, avec des feux tricolores intelligents, notamment. Voilà. Voilà. Sécurité et prévention, priorité absolue. Plutôt que de construire un incinérateur, apprendre à ne plus jeter. Créer un nouveau stade dans la ville. Non mais il y a des propositions par contre. Un plan d'accès aux soins de santé pour chaque Montpelliérain. Un bassin de baignade naturelle sur le lait. On dit le lait, je crois, ou le laise. Je crois. Oh, il y a plein de propales, en fait. Voilà. Et il y a plein d'extraits aussi de... Ah, on dit laise, le laise. Ok, merci beaucoup. Ah oui, de la célèbre pub. Il y a une pub là-dessus. C'est quoi cette bouteille de laise? Ok. Ok, intéressant. C'est vrai pour le coup. Alors, Sugar me dit c'est dommage de ne pas chiffrer. J'entends. C'est vrai que c'est pas chiffré. Mais ce qui est dommage aussi, c'est que le Figaro parle pas trop de ça, quoi. Ok. Intéressant. municipal toujours. Attention, il reste plus que deux articles. Voilà. On rentre dans la dernière ligne droite de la rue de presse, là. Merci d'être aussi nombreux. C'est un peu fou. Je sais que l'actu est assez patiente en ce moment, mais ça me fait bien plaisir quand même. Alors, on va parler un petit peu du RN. C'est un papier... Ah non, ça, c'est dans le Figaro, là. C'est un papier dans Libération. Alors, selon Libé, il resterait sur les listes RN pour les municipales une centaine de candidats problématiques.
Combien ?
Une centaine. Libé a commencé à éplucher les candidatures investies par le parti d'extrême droite ou estampillées Union à l'extrême droite aux élections municipales. Selon notre premier recensement, une centaine de brebis galeuses ont proféré des propos racistes, antisémites, islamophobes, sexistes, homophobes, pro-russes, ou complotistes. Lisons l'article de Libé qui est signé Robin D'Angelot, Victor Denis, Brice Leborgne, Maxime Massé et Pierre Plotu. Parce que du coup, je pense qu'il a fallu du monde pour éplucher un petit peu tous les profils, quoi. Cela fait des semaines que Jordan Bardella et Marine Le Pen assurent avoir été extrêmement prudents, hein, puisque Jordan Bardella, à l'époque, aux dernières législatives notamment, il avait promis de faire le ménage, il avait dit waouh, c'est vrai qu'il y a des candidats, ça va pas du tout. Extrêmement prudent dans le choix des candidats investis par le RN pour porter leur couleur aux municipales des 15 et 22 mars. Des mois qu'ils jurent la main sur le cœur d'avoir déployé les grands moyens pour mener cette chasse aux brebis galeuses. Donc ce sont des mots a priori qui auraient été prononcés par Jordan Bardella, qui selon eux ne représentent en rien les valeurs de cette formation d'extrême droite. Comme Jordan Bardella en fin de semaine dernière sur LCI, ils assurent ne pas avoir la main qui tremble quand il s'agit de sévir. Et pourtant, après des semaines de pré-campagne, la presse et notamment Libé a déjà déniché des dizaines de profils problématiques bel et bien présents sur ces listes ou celles emmenées par ces cadres. Moins de 72 heures après le dépôt officiel des listes, nous avons même compilé une centaine de candidats aux propos ou comportements racistes, antisémites, islamophobes, sexistes, homophobes, pro-russes, complotistes, ultranationalistes. Si certains d'entre eux ne sont que soutenus par le parti, le RN, la majorité de ces profils sont de très officielles investitures, des candidats problématiques estampillés RN ou Union à l'extrême droite ont été repérés dans 69 listes, soit plus d'une commune sur 10 où le RN et ses alliés ont déposé des candidatures. Désormais, les listes ayant été déposées en préfecture, il est possible de les passer au peigne fin, de les laseriser comme Jordan Bardella avait ironisé au sein de l'agriculture, répondant à une question de Libé justement sur les contingents de brebis galeuses du parti. Comme si ce n'était pas le rôle de la presse et comme si le parti n'avait pas promis de faire le ménage depuis des mois. Chaque personne est vérifiée, sur-vérifiée, jurait ainsi l'eurodéputé frontiste Alexander Nikolic en juin 2025 au Monde, assurant qu'un algorithme de recherche... Non, pas une commune sur dix, SCO. Une liste sur 10, c'est pas la même chose. Merci le bol d'histoire. Merci pour ton raid. Merci beaucoup. On est sur un article de Libé qui souligne qu'il resterait une centaine de candidats problématiques sur les listes RN au municipal. Donc, assurant qu'un algorithme de recherche avait été déployé pour scanner les publications de chaque postulant. Le RN va devoir revoir ses outils numériques, écrit Libé. Quelques heures seulement après la publication par le ministère de l'Intérieur de données. Des données de l'intégralité des listes et malgré l'annonce du retrait de l'investiture à la tête de liste à Dunkerque pour avoir gardé un militant de l'Action française, les fameux lasers de Libé ne cessent de clignoter. Alors, Libé donne des exemples. Nous avons par exemple repéré Stéphane Perry en troisième position sur la liste du candidat RN de Taon-les-Vosges ou Ton-les-Vosges. Taon-les-Vosges ? Non, comme un Taon ? Taon-les-Vosges. Taon-les-Vosges. Délégué départemental d'Identité et Liberté, micro-parti de Marion Maréchal, il est un ardent promoteur de la remigration, dont il soutient une interprétation maximaliste. En clair, la remigration. Ne pas expulser seulement les étrangers en situation irrégulière, comme le préconise Éric Zemmour, mais les personnes racisées en général. Ah, on dit Taon ? Taon, merci beaucoup. Donc on dit Taon-les-Vosges, merci beaucoup. Le 7 décembre 2024, ce monsieur a publié sur Facebook une photo d'Emmanuel Macron en bain de foule dans un quartier populaire où la plupart des gens qui l'entourent sont noirs ou arabes. Un aller sans retour pour le bled, écrit-il en légende, qu'importe qu'il soit français ou non. Bon, ça a le mérite d'être clair. Un commentaire auquel il ajoute une photo d'avion au cas où on n'aurait pas bien compris. Monsieur Perry, qui n'a pas répondu aux sollicitations de Libération, aime par ailleurs sur Facebook le mouvement national catholique, un groupuscule pétainiste et antisémite, et partage les clips des Brigandes, girls band aux paroles racistes et homophobes, façade de la secte du gourou Joël Labruyère. À l'autre bout du pays, Libération a aussi déniché Sophie Manic, deuxième de liste à Lorient. C'est pas des gens qui sont en bas de liste. Cette ancienne infirmière de 66 ans régale les followers de son profil Facebook de secours, profil de secours, le premier a peut-être été supprimé, de contenu complotiste entre deux recettes de cuisine. C'est sympa ça d'avoir un peu de cuisine aussi. Elle y partage par exemple à plusieurs reprises l'antienne de tout complotiste qui se respecte, le tracé des avions dans le ciel. Les chemtrails, on dit chemtrails, c'est ça? Ou chemtrails? Comment on prononce? Vous savez, les vapeurs d'avion. Chem, on dit chem, c'est ça, chemtrails. Qui cacherait des vaporisations de produits chimiques destinés à stériliser ou empoisonner les populations. Des thérapies. Ah oui, donc ça c'est pour les chemtrails, donc. Voilà. Et alors, il y a aussi quelques propos sur les vaccins anti-Covid, qui sont donc des thérapies modifiant les gènes conçues pour détruire votre propre corps, selon une publication qu'elle a republiée en décembre. Selon une autre publication sur ce compte Facebook, datée également de décembre 2025, Laurent Fabius serait complice de la candidature frauduleuse de Macron 2022, puis de son élection illégale, okay, et devrait être mise en examen. Par ailleurs, les dizaines de profils racistes, antisémites et autres sortis dans la presse ces dernières semaines, de Libé au Jour en passant par Mediapart, Le Parisien ou Street Press, figurent bien parmi les candidats officiels investis. Tous prennent pourtant soin d'interroger le RN, hein, tous ces médias, qui fait quasi systématiquement la sourde oreille et regarde ailleurs. Daniel Captier, en troisième position de la liste RN à Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône, dont nous avons révélé qu'il lançait sur Facebook en 2024, deux points, ouvrez les guillemets, Charles Martel en 732, à l'époque on ne parlait pas d'islamophobie, on les chassait, point barre. Donc Charles Martel, c'est celui qui boote les morts hors de France, c'est ça, je dis pas de bêtises? Donc lui, il dit en 2024, il dit, à l'époque, on ne parlait pas d'islamophobie, on les chassait, point barre. Numéro 3 de la liste RN à Salon de Provence. Voilà. Lui est toujours là, qu'il retourne de là où il vient, qu'il amène toute sa tribu avec lui, qu'il aille traire la chèvre, ça nous fera des vacances. Vitupéré de son côté, Monique Grisetti, qui est députée de Marseille, à propos du chanteur Gims, de nationalité congolaise en 2022 sur Facebook. Donc Madame Monique Grisetti déclarait en 2022, à propos de Gims, qu'il retourne de là où il vient, qu'il amène toute sa tribu avec lui, qu'il aille traire la chèvre, ça nous fera des vacances. Voilà. Et pourquoi Libé en parle? C'est parce qu'elle est candidate au municipal aussi sur la liste de son neveu Franck Alizio à Marseille. Comme dit Diesel, mais on peut plus rien dire aussi. Toujours tête de liste à Le 4 Aude, donc tête de liste, Laure Emmanuel Philippe, partage en 2014 sur Facebook la photo d'un camion de livraison de viande halal tagué d'une croix celtique néofasciste et des mentions « Vive le porc, nique le halal, nique les arabes » et ajoutant son propre commentaire « J'aime pas trop le principe du tag, par contre j'aime bien le sens du message. » Pas de sanction non plus pour Fernand Beauvillain à Pugnac en Gironde, dont le média Les Jours a révélé qu'il disait sur Facebook l'an passé, c'est pas très vieux, par exemple, prenez vos fusils et boum, à propos de Kylian Mbappé, ou appel à un grand nettoyage en 2027. Je ne suis pas sûr qu'il parle de pressing. La députée RN du coin et vice-présidente du parti, Edwige Diaz, lui a même renouvelé son soutien. Oh pardon, petit propos quand même de contextualisation. Monsieur le rapporteur de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le jeune public, ici je ne fais que lire un article de Libération qui cite ses sources par ailleurs. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec ces informations rapportées par le journal Libération, je vous enjoins, je vous invite à poursuivre le journal Libération pour diffusion de fausses nouvelles, mais je ne fais que, dans le cas d'une revue de presse de plusieurs heures, que lire cet article. Ce n'est pas une lecture partisane, hein. Mais n'hésitez pas à me réinviter, je serai très heureux de vous rejoindre à l'Assemblée pour en discuter tous les deux. Donc, prenez vos fusils et boum à propos de Kylian Mbappé, ou appel à un grand nettoyage en 2027, la députée RN du coin, vice-présidente du parti, Edwige Diaz, lui a même redoublé son soutien. Libé a également pu constater la présence sur ces mêmes listes enregistrées en préfecture, des profils dont les propos odieux sont d'autorité publique, soulignés depuis des années par les journalistes. Ainsi, Julio Pichon, tête de liste à Saint-Nazaire, a par exemple liké et mis sur Facebook en 2025 une image représentant l'explosion d'un bâtiment lors d'un bombardement avec, pour légende, « Moi, les mosquées, c'est comme ça que je les aime. » Lol. Voilà. Ou que la députée RN Joëlle Mélin, qui conduit la liste à Aubagne, donc tête de liste aussi, Bouches-du-Rhône, comparait en 2023 les migrants à des animaux, dans une interview à La Provence, disant préférer les voir à Djibouti, où ils sont mieux dans leur milieu naturel. Sans oublier Caroline Parmentier, ancienne attachée de presse du RN proche de Marine Le Pen, députée, en deuxième position à Béthune, et dont... Ah, Madame Parmentier, je l'ai vue à la commission. Dans des réacts d'audition de la commission dont je parlais à l'instant, on a vu Madame Caroline Parmentier, qui posait des questions. Ah, c'est elle qui parlait des pas des Julie, mais des Sophie, ou je sais pas quoi. Les Sophie. Les 13 millions de Sophie de France. Ou je sais plus quoi. Ah, ok, je vous rappelle. Donc, je vois très bien, du coup. Non, pas les sophistes, les Sophie. Enfin, il faut avoir la ref. Vous chercherez sur Internet. Donc, Madame Parmentier. Et donc, Mediapart a révélé les textes racistes, antisémites, homophobes publiés pendant 30 ans dans le journal d'extrême droite présent. Connu ou en attente de l'être, nous avons donc à ce stade écrit Libération ce matin, identifié plus d'une centaine de ces profils qui contredisent à eux seuls la normalisation du Rassemblement national, toujours bien ancré à l'extrême droite. En 2024, son président, Jordan Bardella, avait lui-même été épinglé pour son compte Twitter caché, 2024, l'émission de France 2 complément d'enquête, et Libération. C'est marrant, on a beaucoup parlé de complément d'enquête dans la commission. Avait révélé que Jordan Bardella déversait sous le pseudonyme Rep Nat du Ghetto, G-A-I-T-O, des messages insultants journalistes et opposants du RN, mais aussi à connotation raciste. Il a beau jeu désormais de parler de brebis galeuses pour renier ses propres candidats et tenter de minimiser leur importance dans le RN. Je rappelle que ce ne sont pas les propos ici de Samuel Etienne, ce n'est pas moi qui menais cette enquête, c'est le journal Libération. Pour ceux qui veulent contester les informations qui sont présentes dans cet article, que vous soyez citoyen élu par exemple, n'hésitez pas à contacter Libération. Bon, article intéressant. Je vous lis un petit peu. En tout cas, voilà, je rappelle que cette chaîne n'est pas militante, que je suis dans le cadre d'une revue de presse où je lis, où j'ai lu depuis ce matin le Parisien, La Croix, Le Figaro, pas Le Monde, parce que du coup sur l'Iran, Le Monde était un peu en retard puisqu'il est sorti samedi ce matin, un peu tous les journaux, différentes sensibilités. Bon, voilà, voici pour cet article de Libé. Il est où Pierrot d'ailleurs? Oui, t'as raison. Pierrot 2021. Qu'est-ce que vous avez fait à Pierrot? Ah, t'avais pas fini ta phrase. Tu es un militant de gauche. Oui, oui, bah c'est effectivement l'accusation qui est lancée par le député d'extrême droite Charles Aloncle. Merci pour l'info. Ah. Alors, un petit dernier. Ah bah tiens, justement, Pierrot, reste avec nous parce que, justement, tu reprends des éléments de langage d'un député. Eh bien, on va en parler. Alors, monsieur Charles Alloncle, c'est le hasard. Il se trouve que nous avons eu un petit échange ce week-end sur les réseaux, assez musclé, assez tendu. Ben, Libération parle de vous ce matin. Et précisément, Claude Askolovitch parle de vous ce matin. Titre de l'article, Galeb Benchek, penseur de l'islam, calomnié par la bêtise. Charles Alloncle, rapporteur d'extrême droite de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, a dépeint le producteur à France Culture en agent des frères musulmans sans susciter de réponse indignée. À quoi bon penser toute une vie puisque les préjugés d'un député peuvent vous renverser. C'est une histoire que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert ce matin et qui est assez intéressante. Askolovitch s'interroge. Avec quelle légèreté peut-on salir un homme ? Le député Charles Alloncle vient de diffamer un intellectuel français, Galeb Benchek, qualifié d'agent islamiste au contraire de ses idées, paroles et écrits. Pour rappel, Alloncle est cet élu qui mène le procès du service public de l'audiovisuel dans une commission de requête parlementaire dont il est le rapporteur, jeudi 19 février, reprochant à France Culture, un biais islamiste. Alloncle avança ceci. Un producteur d'émission était un compagnon des frères musulmans. Le député évoqua un programme nommé « Questions d'islam ». Dans ses contenus, la question d'un racisme supposé en France y est très régulièrement abordée, parfois avec des intervenants contestés comme Galeb Benchek qui est proche des frères musulmans. On m'a fait parvenir une photo de M. Galeb Benchek, a dit le rapporteur, qui est producteur de l'émission « Questions d'islam » sur France Culture, qui a participé récemment à un colloque des frères musulmans et qui dit venir en tant qu'ami, donc vous voyez que ce sont des faits extrêmement graves. Il compléta ainsi, est-ce que vous vous renseignez sur le profil et le pédigré de vos intervenants ? Reprenons ces mots délicats, dit Claude Askolovitch. Voici le profil et pédigré de Galeb Benchek, 65 ans, président de la Fondation de l'Islam de France, reconnu d'utilité publique, où il a succédé à Jean-Pierre Chevènement, et membre du Conseil des sages de la laïcité instauré par le non moins laïque ministre Jean-Michel Blanquer, qui ne cooptait guère de frériste. Benchek est un passeur, un écrivain, un animateur d'émissions religieuses et culturelles à la télévision, puis à la radio, un réformateur et un notable de la République. Il prône une refondation théologique de l'islam pour le délivrer de la violence et lui rendre l'humanisme. Il a soutenu des femmes imams qui organisaient des prières mixtes. Il critique le voile islamique, atteinte à la dignité humaine dans sa composante féminine, disait-il à Marianne en 2019. Cette phrase lui a valu d'ailleurs beaucoup d'ennuis. Bref, il faut avoir du nerf pour voir en Benchek un agent des frères musulmans. Mais quelqu'un a envoyé une photo à l'oncle, et pour le député, cette photo valait mieux que les livres et les émissions de Benchek, qu'il n'a sans doute jamais lu ni entendu, et dont il ignorait le nom avant de le calomnier. Si je me trompe, écrit Askolovitch, si Alloncle connaissait Benchek et donc l'avait lu ou l'avait entendu, ce serait pire. Il serait alors un faussaire délibéré. Je veux croire cet élu, dit Askolovitch à propos de M. Alloncle, moins méchant que borné. Non pas un salaud, mais un paresseux. Alloncle aurait pu savoir que dans son assemblée, le 28 octobre 2025, Benchek avait été auditionné pour une commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. Benchek avait éclairé l'histoire et les mots. Il avait dit ceci des terroristes, « Pensez-vous qu'un Koulibaly ou qu'un Kouachi a lu le Coran ou connaît la finesse de la théologie islamique de l'ère classique ?» Il avait aussi raconté ses débats dans le monde arabo-musulman quand il plaidait pour la France laïque et dont les produits étaient boycottés du camembert jusqu'au foulard Hermès. En Jordanie, au Qatar, en Arabie Saoudite, Benchek nous expliquait « En France, on ne gouverne pas la cité selon le désir politique de Dieu. » Au député, Benchek rappela que nous fûmes construits par Calas, commerçant protestant exécuté à mort en 1762, par le chevalier de la Barre, libre penseur assassiné par la justice en 1766, à l'oncle connaît-il Calas et le chevalier de la Barre et leur défenseur Voltaire, les connaît-il aussi bien que Benchek qui l'a taxé d'islamisme. Désormais, j'ai un chat dans la gorge. Depuis un moment, il faudrait que je m'en occupe un petit peu. Askolovitch poursuit. Se rend-il compte... Ah, désolé. Désolé, pardon. Monsieur le rapporteur, si vous m'écoutez. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Se rend-il compte à l'oncle qu'en désignant un intellectuel pour délit d'opinion, il prend la suite des bourreaux d'antan. Ceux qui, au pouvoir, arrachent les malpensants à leur existence sans pitié ni remords, paresseusement. À l'oncle rétorquera qu'il n'a tué personne et qu'il n'est pas au pouvoir. Au second argument, je dirais pas encore. À l'oncle député UDR, dont le ministère de l'Intérieur vient de déclarer, et avec validation du Conseil d'État, que l'UDR était un parti d'extrême droite, supplétif du RN, trentenaire actif sur les réseaux sociaux, épouse les hargnes de ses communautés. Il a de l'avenir et déjà des médias du présent. Sa charge contre Benchek illustre ses limites. L'homme qu'il a dénigré pourrait être son allié dans la promotion d'un islam libéral. C'est un défenseur de la France et un adversaire de l'islamisme que le nationaliste à l'oncle a livré à une calomnie virale. Parce que manifestement, Internet s'est emparé de ce sujet. Benchek, frère musulman, point d'interrogation, cela restera. Peut-on parler ici d'une islamophobie d'atmosphère? Un intellectuel arabe, un frère un duplice, un antriste, ben voyons. La facilité avec laquelle la calomnie s'est répandue laisse pantois comme le peu de réponses qu'elle a suscité. Le Figaro, qui connaît pourtant Benchek, a relayé sur ses réseaux la charge d'Aloncle. L'anthropologue Florence Bergeau-Blaquer, que Galeb Benchek avait invité sur France Culture, a pourtant fait chorus. À quoi bon écrire, penser toute une vie, puisque la bêtise, la paresse, les préjugés, un député, peuvent vous renverser. Devant les parlementaires, en octobre 2025, Benchek reprochait aussi à des partis politiques d'insulter en bloc les musulmans. Il citait l'UDR et le RN. C'était donc une prophétie. À l'oncle, est-il vraiment entré en politique pour insulter des gens? Sinon, explique Claude Askolovitch dans Libération, il est exact que Benchek a participé le 14 février à un colloque organisé par l'Association musulmane de France, héritière de l'Union des organisations islamiques en France, UOIF, qui, née dans la mouvance des frères musulmans, fut un interlocuteur privilégié du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Le colloque de l'Association musulmane de France a été filmé. Ce n'était donc pas un grand scoop que la photo donnée au député à l'oncle. Benchek a débattu sans se cacher. Comment débattu dans ce colloque un frère dominicain, l'ex-directeur de Sciences Po Lille, un ancien spécialiste de l'islam au ministère de l'Intérieur. Benchek était chez les musulmans de France comme il s'est rendu à la fondation chevènementiste Respublica ou au bien droitier Institut Thomas More, qui a été cité à plusieurs reprises par le rapporteur dans ses auditions. Benchek aime discuter, c'est une passion française ou bien ce qui nous en reste. Le 13 février, le président des musulmans de France, Maklouf Mamesh, avait participé à Lille à une cérémonie en souvenir du jeune juif assassiné, Ilan Halimi. Ainsi, dans ce pays, des gens s'efforcent de surmonter la stupidité qui nous envahit. Voilà. Pour la tribune, c'est une tribune. Une tribune, c'est quelqu'un qui prend la plume pour donner son avis. Alors, ici, Claude Askolovitch avance des faits, des informations. Peut-être que certains vont prendre la plume dans les prochaines heures, les prochaines informations, parce que les accusations sont assez graves contre le député Charles Aloncle. Donc peut-être que certains vont prendre la plume pour dire que les faits rapportés par Claude Askolovitch sont faux, erronés, ou que l'analyse de ces faits est erronée. Ce sera intéressant de le voir. Si jamais je vois un article sur le sujet ou une déclaration, je vous l'apporterai bien sûr. Quelle est la différence entre une tribune et un édito? L'édito est signé par un journaliste du journal. Voilà. Je ne crois pas que Claude Askolovitch est salarié de Libération. C'est pour ça que je parle plus d'une tribune. Tu vois, c'est pas marqué édito, c'est marqué idée. En fait, il y a régulièrement des gens, des économistes ou des intellectuels ou des chefs d'entreprise ou des personnes de la société civile qui vont prendre la parole dans un journal parce qu'à un moment, le journal estime que leur propos est intéressant. Ils vont avoir une tribune. Mais ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des salariés du journal. C'est un peu ça la différence. Non, désolé pour les raclements de gorge, je suis confus. Il faudrait que je consulte peut-être, ça fait un moment que je me racle. Je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Je m'en excuse, je suis vraiment désolé. Est-ce qu'ils payent pour faire paraître leur tribune? Non, c'est une page ouverte à certains. Voilà, quand la tribune est jugée intéressante par le média, Thomas, toi demain, si tu envoies un article à Libération ou au Figaro ou à d'autres journaux et que le journal trouve ça vraiment intéressant, bah, tu seras peut-être publié aussi. Mais il n'y a pas de paiement. Allez, je lis encore un ou deux messages et on va faire un joli raid. J'accuse de Zola, est-ce que c'était une tribune? Alors, bonne question. Zola, à l'époque, a été collaborateur de journaux. Il a écrit pour des journaux, il a écrit pour Le Figaro, d'ailleurs, notamment. Et c'est drôle parce que, à l'occasion des 200 ans du Figaro, c'était passionnant. Parce que j'ai fait un stream qui était une OP pour les 200 ans du Figaro, au Grand Palais, c'était assez sympa. Les journalistes du Figaro nous ont raconté que Zola avait commencé à dénoncer le scandale de l'affaire Dreyfus dans le Figaro. Voilà. Où il collaborait, où il écrivait les articles. Et puis ça a suscité un tollé parmi les lecteurs du Figaro, qui était anti-Dreyfusard, comme on dit à l'époque. Et donc, le J'accuse de Zola n'est pas paru dans le Figaro, elle est parue dans l'Aurore. Voilà. Alors, est-ce qu'à l'époque, Zola était pigiste, journaliste pour l'Aurore, comme il l'avait été pour le Figaro? Je n'ai pas cette précision. Voilà, je n'ai pas cette précision, mais... Bah il y avait de grands écrivains à l'époque. Proust écrivait pour le Figaro, etc. Il y a beaucoup d'écrivains du 19e siècle, et notamment qui ont écrit dans des journaux, quoi. Il y avait, les liens entre les écrivains et les journaux étaient parfois assez serrés, quoi. Tu veux dire que le Figaro t'a demandé de faire une chaîne Twitch pour la propagande? Oui, je le reconnais. J'ai eu une opération commerciale. Enfin, je reconnais rien du tout puisque quand je fais une OP, c'est indiqué, hein, c'est transparent. Donc, il suffit de regarder, il suffit de lire, hein, c'est marqué, c'est écrit dessus. Donc, oui, une opération commerciale pour le Figaro. Il y a quelques semaines, je pense qu'on peut en déduire effectivement que le Figaro a financé ma chaîne. Voilà. Journal conservateur, journal de droite, et quelque part, quid de l'indépendance de ma chaîne? Quid de l'indépendance de ma chaîne au regard de cette opération commerciale? Je pose la question, j'ouvre le débat. Maintenant, il va falloir savoir où je suis un gros doigtard, droitard, c'est comme ça qu'on dit? Droitard, un droitard? Ou un gauchiste, mais il va falloir choisir. Bon, on peut plus, moi. Droitard? Droitard, c'est ça. Je laisse Monsieur Pascal Praud analyser cette information.
Eh oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent.
Ouais, au Figaro. Merci les amis pour ce matin. On a bien rigolé encore. Alors, on s'est informé. On s'est informé. On a appris plein de choses, notamment sur l'Iran. C'était quand même assez intéressant. Voilà. Merci pour ce matin, merci d'être aussi nombreux en ce moment, c'est un plaisir. Voilà. Merci des petits messages de soutien, mais en vrai tout va bien, moi je suis en pleine forme, je crois que ça se voit. Moi, je suis assez heureux de cette séquence d'actualité qu'on vit sur la chaîne qui est vraiment intéressante. Vous savez que moi j'aime bien discuter avec les gens de toute opinion politique. Voilà. À condition que chacun fasse un effort minimal, à commencer par moi, pour échanger avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, quoi. Mais quand chacun fait cet effort, c'est intéressant. Et quand chacun ne se réfugie pas dans une posture militante excessive, où seule sa pensée est la bonne et que celui qui ne pense pas comme toi est forcément quelqu'un qui a tort, forcément un ennemi. Vous savez qu'il y a des gens ici de toute sensibilité, y compris, on a beaucoup parlé du RN à la fin là, de cette revue de presse, y compris des gens qui votent RN et qui savent qu'ici, ce n'est pas leur vote RN qui les empêche de participer à cette chaîne. Ce ne sont pas mes idées, je ne m'en cache pas, mais moi je suis pour le dialogue, et je me dis que c'est par le dialogue qu'on peut réfléchir ensemble, parfois faire changer les autres d'avis, ou pas d'ailleurs. Voilà. Mais si on se réfugie dans une posture militante qui est de dire j'ai raison, les autres ont tort, bah forcément il n'y a aucun débat possible, et c'est un des trucs regrettables un petit peu dans l'évolution du débat aujourd'hui en France, ultra polarisé par les réseaux sociaux, où justement les gens ne veulent plus s'entendre, ne veulent plus s'écouter. Voilà. Et on déforme la vérité, on crée des vérités alternatives, on entend des infos, mais on veut bien écouter certaines infos, mais pas d'autres, etc. C'est pas très très grave, tout ça n'est pas très très grave. En tout cas, c'est un des sujets principaux de cette chaîne. Les amis, un gros bisou, je vous retrouve demain matin au plus tard pour l'info, peut-être ce soir s'il y a des dingueries sur l'Iran, je ne sais pas. Sinon, peut-être qu'on se fera un petit chill, un petit stream chill gaming pour se changer les idées. Voilà, je vous tiens au courant, en général, c'est à partir de 20h. Alors, qui est en live? Il y a beaucoup de gens que j'aime bien. Ah, je vois qu'il y a plein de gens. Je choisis. Ok. Tiens, je parlais de gaming, peut-être qu'on peut se changer un peu les idées, non? Hein? Allez, vous savez quoi? On va changer les idées, parce que là, c'était un peu... L'actu, c'est parfois un peu anxiogène. Ok. Attends, il s'en va, là, ou il est... Il cut pas son live, hein? Non, il cut pas son live. On est sur du... Je sais pas sur quel jeu. En tout cas, on est avec Skyrose. Voilà. Et là, on va bien changer les idées. Un petit contenu gaming. Ok, let's go. Ça va nous changer un petit peu les idées. On est sur le Call of? On est sur le Call of. Ok, allez, c'est parti. De l'énergie, de la joie, du gaming, Skyrose, à ce soir, à demain matin. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. À très vite. Des bisous et vraiment, du fond du cœur, merci pour tout. Ça part dans 5, 4, 3, 2, 1, allez, un petit pour le plaisir, attends.
Je vais t'en rincer les yeux, tête du cul.